parler, c'est déjà avancé. La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 21h, 23h, Confidence. L'émission Sans Tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Bonsoir, chers amis, et bienvenue sur Beurre FM. Il est 21h, c'est l'heure de Confidence. Écoutez, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de Confidence sur Beurre FM, puisque c'est maintenant que nous allons commencer. Voilà, le standard est ouvert pour vous, rien que pour vous, durant 2 heures. Donc on se dépêche, les premiers arrivés, bon ben vous savez, vous connaissez la règle, seront les premiers servis, puisque c'est vous qui donnerez le ton, qui donnerez le thème de l'émission, voilà. Et les autres, moi, j'en fais partie, suivront, voilà. Allez, 01 53 48 3000, on va dire bonsoir à Zach qui réalise cette émission. Et qui vous répond au standard 01 53 48 3000. Mais avant de vous donner la parole, alors il y a beaucoup de choses à se dire, hein. Bon, beaucoup, hein. Bon, alors, avant de vous donner la parole, permettez-moi d'avoir une pensée pour nos amis qui sont souffrants. Je vous souhaite un prompt rétablissement, ainsi qu'à vous qui êtes hospitalisés ou seuls chez vous, une pensée également aux personnes incarcérées, ainsi qu'à vos familles. On n'oublie pas les courageuses et les courageux du soir, vous qui travaillez de nuit. Une pensée également aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe, aux sans-papiers, aux réfugiés, aux animaux, une pensée à tous les terriens, sans distinction aucune. Voilà. Bah écoutez, vous pouvez... hier, je sais que vous avez été très nombreux à vouloir intervenir à l'antenne. Tout le monde n'a pas pu passer, hélas, puisque le temps, hein, voilà, le temps, nous sommes tributaires du temps, le timing. Voilà, et puis le sujet était... Enfin, le sujet... ça partait un peu dans tous les sens. Non, mais on s'est bien amusé hier soir, vraiment, autour du sujet de Tariq. Hein, Tariq, hein, Tariq, il est unique, n'est-ce pas? C'est vrai. Ah oui, alors j'ai reçu beaucoup de messages le concernant, les gens en redemandent, hein, une émission comme hier. Mais écoutez, on recommencera jeudi, puisqu'il sera avec nous jeudi. C'est vrai qu'il est comme ça, il est ingérable, hein, le garçon. Hein, vous avez vu, hein, vraiment. Comment dire, ben, il fonctionne en roue libre, voilà. Alors, moi, vous voyez, j'essaie de suivre. Pas toujours évident, parce que je ne sais jamais ce qui va nous sortir. Alors, avec Méziane, c'était quelque chose, un sketch, hein, ça valait le détour. Voilà, alors hier, il nous a proposé son sujet, hein, Tariq, hein, parce que je lui ai dit de choisir. C'était le syndrome de la cousine. Oh, c'était pas mal, hein. Ah oui, syndrome de la cousine, si vous n'avez pas... Écoutez l'émission d'hier soir, moi, je vous suggère d'écouter le podcast. Hein. C'était vraiment quelque chose. Hein. Oui, parce qu'il souffre du syndrome de la cousine. On en parlera un peu plus, si vous voulez, tout à l'heure. Alors, on accueille tout de suite... Alors, on a Djabit. Ah ouais, il s'appelle comme ça. Leïla, juste après de Saint-Étienne. Djabit, c'est ça? Allô, bonsoir.
Djabit.
Comment tu t'appelles? C'est quoi ton prénom?
Djabit.
Kavit.
Djabit Valdoise.
C'est Kavit. Ouais, c'est vrai qu'on entend mal. Non, mais t'as raison, Zach, hein, parce que c'est pas évident, ça résonne.
Bonsoir.
Kavit, c'est un prénom turc. Voilà, donc c'est pour ça que... connais pas trop, voilà, mais c'est un très joli prénom. Bonsoir Kavit, comment es-tu? Ça va? Ben on l'entend plus, ah ben je le vois plus. Kavit, reviens. Allez, on accueille Leïla de Saint-Étienne en attendant. Bonsoir Leïla.
Oui, bonsoir Vanessa, comment allez-vous?
Ben très bien, et toi?
Enfin, je vais bien, oui et non, parce que je viens d'amener ma mère chez un psychologue.
Tu as accompagné ta maman chez un psychologue?
Voilà, parce qu'en fait, ma mère vit avec... j'ai un des frères qui est schizophrène.
Ton frère est schizophrène. Tu as le haut-parleur ou qu'est-ce que c'est?
Alors, en fait, oui, j'ai le haut-parleur parce que mon portable, il a un souci.
Ah oui, mais il faut vraiment l'éteindre, le haut-parleur, parce que sinon, ça passe pas.
En fait, j'ai même le haut-parleur, mais c'est juste... pas tout vous trouvant, en fait. Désolée. En fait, mon sujet, il va être très rapide. Voilà.
Essaye de retirer ton haut-parleur, vas-y.
Alors attends, je me
trompe
pas.
Oui, parce que sinon ça marche pas. Ah, sinon ça fonctionne pas. Vous avez des drôles de téléphones, les auditeurs, hein, de Beurre FM. Incroyable. Hein. Vous avez des téléphones pas comme tout le monde. Vous n'êtes pas comme tout le monde, déjà. C'est bon, là?
Est-ce que toi, tu veux me proposer ou pas?
Alors, vas-y, on t'écoute.
Alors, moi, en fait, ma mère, elle est souffre parce qu'on a un des frères qui est schizophrène.
Ton frère est schizophrène, oui. Ça, c'est une sale maladie. Voilà. Hein.
Le sujet suivant, est-ce que nos enfants coûtent une goutte?
Est-ce que, parce que j'entends pas, comme tu as laissé le haut-parleur, on n'entend pas.
Est-ce qu'on doit supporter nos enfants coûte que coûte?
Est-ce qu'on doit supporter nos enfants coûte que coûte?
Voilà. Est-ce qu'on doit.
Alors, moi, j'ai envie de te poser, de te retourner une autre question en réponse. Est-ce que tu connais une autre solution que de supporter ses enfants quand ils sont malades, en l'occurrence schizophrénie, qui est une sale maladie qu'on ne choisit pas, il n'a pas choisi ton frère. Comment faire? On ne peut pas jeter nos enfants comme on ne peut pas jeter nos parents, hein?
T'as raison.
C'est ça.
Est-ce qu'il y a des personnes qui ont vécu ça? Est-ce qu'ils peuvent partager leurs astuces, leurs expériences? Ma mère, ce qu'elle a fait cette année, elle a marié mon frère à une fille du bled.
Ton frère qui est schizophrène, elle l'a marié avec une fille du bled.
Voilà, en se disant, elle va s'occuper du problème, elle va gérer le problème.
Ah bah voilà.
Et la fille du bled, elle ne sait pas gérer le problème. Et
c'est pas qu'elle ne sait pas gérer le problème, c'est pas son rôle. C'est marrant parce que ça. Enfin, c'est marrant, c'est pas drôle, hein, du tout, c'est pas marrant. Mais c'est. Comment dire? C'est des choses que j'entends souvent. Souvent, hein. Quand un des enfants souffre d'une maladie mentale, parce que c'est une maladie mentale, psychologique, eh bien, Alors, la solution, c'est de lui ramener une femme. Alors, c'est les soins qu'il lui faut. Non, on lui ramène une femme. Une femme, c'est pas un médicament, c'est pas des soins. Donc, et en plus, on la ramène du bled, parce qu'on sait que là-bas, bon, souvent, il y a des filles qui, c'est dans certains endroits, c'est la misère. Donc, les parents, ils donnent leurs filles comme ça facilement, malheureusement. Alors, donc, un malade comme ton frère, qui est schizophrène quand même, la schizophrénie, c'est sérieux, hein, c'est pas rien, hein, c'est une des maladies psychologiques des plus terribles. Donc, on le marie. Et vous avez compté sur cette femme pour faire office d'infirmière ou de... C'est pas possible.
Alors, ce qu'il faut savoir quand tu dis vous, en fait, c'est pour ma mère. En fait.
Je parle pas de toi seulement, c'est beaucoup. Oui. Ouais.
C'est ma mère qui pensait vraiment que... En fait, déjà, elle a minimisé la maladie de schizophrénie. Elle pense que c'est une maladie un peu mentale, mais que c'est beaucoup de sa faute. On n'arrive pas à comprendre cette maladie.
La faute de qui? De ton frère?
Elle pense voilà, qu'il est dans l'exagération, parce que quand il fait des crises, il doute de tout. Il a par exemple pris un couteau en courant derrière mon frère en disant « tu couches avec ta femme ».
Ben oui, c'est sa maladie qui veut ça. Tu sais, ça c'est les syndromes de la maladie. C'est comme ça qu'elle se manifeste, la maladie. Ben oui, parce qu'ils deviennent paranoïaques, ils deviennent... ils entendent des voix, ils ont des hallucinations... Là, il prend le couteau, bah, il peut tuer aussi. Il peut se faire du mal à lui, il peut faire du mal à autrui. Je veux dire, c'est inconscient de marier ces personnes. Non, mais il peut pas s'assumer lui-même, Skin. Il est dans son monde. C'est une maladie mentale.
Il est dans son monde.
Ouais. Eh ben oui. Alors pourquoi lui ramener cette femme? Cette femme, c'est une victime. Alors ta mère, elle dit, ah oui, cette femme, elle peut pas assumer, mais ça va pas. C'est incroyable. Cette femme, elle a pas.
Voilà ma question. Est-ce qu'on peut justement avoir les avis des gens qui nous écoutent? Est-ce qu'ils ont vécu avec un membre de la famille?
Bah écoute, on va lancer.
Quelle sorte de maladie? Qu'est-ce qu'ils ont?
Alors,
qu'est-ce
que tu
ont fait? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Ne pars pas. Je te laisse à l'antenne. Tu pars pas, hein?
Oui.
Voilà.
Oui, non, je reste.
Voilà, tu restes. Je te mets en attente. S'il y a des personnes qui veulent te répondre, je te mettrai en discussion avec personne. Mais je trouve, hein, personnellement, je trouve que c'est vraiment, comment dire, inconscient, c'est le terme, j'en ai pas d'autre, hein, irréfléchi, c'est trop léger, inconscient, de marier, je l'entends souvent, hein, il y a des hommes qui sont malades, qui souffrent de maladies, souvent en schizophrénie, etc. La solution, qu'est-ce qu'elles trouvent les mères? Comment on va, elles sortent au marché? Ils ramènent une femme, elles sortent, on fait les courses. Ils ramènent une femme du bled, ça veut dire que les femmes du bled, c'est des femmes qui doivent tout supporter. C'est pas des êtres humains, c'est des surhumains, c'est des personnes qu'on ne considère pas, voilà, et que on ramène, voilà, juste pour se débarrasser du fardeau, c'est-à-dire de la personne qu'on ne supporte plus, on supporte plus sa maladie, etc. Donc on se dit, on se décharge sur elle et elle de se débrouiller. Comment elle fait, Mskina? Bah, déjà, la maladie, elle doit être soignée par des professionnels parce que c'est très sérieux, ce genre de maladie. Alors, vous ramenez une femme, Mskina, elle ne connaît rien et en plus, vous la mariez avec lui. Imaginez, elle encourt un danger et. Non, les femmes Talbled, c'est des femmes comme celles d'ici. Elles sont à respecter comme les autres. Voilà. Donc, excusez-moi, hein, je vais être méchante, mais l'esclavage, il est révolu. Voilà. Ne pars pas, Leïla. Hein, c'est vraiment pas péjoratif ce que je dis, mais ça arrive tellement fréquemment. On me l'a tellement raconté cette histoire. J'ai l'impression d'entendre toujours le même son de cloche. Quand il y a une maladie mentale, on va au pays, on ramène une femme. Voilà. Bon, une femme. Toutes les femmes ne sont pas prêtes à se marier avec des personnes malades, hein, comme ça, surtout des maladies mentales au pays, attention. Hein. Mais il y en a dans des endroits retirés, dans les campagnes, dans les montagnes. Des fois, elles sont orphelines, elles n'ont pas de parents, elles ne sont pas protégées. Donc, c'est un fardeau là-bas pour la famille. Alors, on se débarrasse d'elle, on la marie avec Wahed qui a une maladie mentale, on se débarrasse. Voilà, Ouhiya Mskina, elle, de se débrouiller. Non. Soyons sérieux, vraiment soyons sérieux. Alors, on a Mehdi, c'est ça, Mehdi de Tours.
Oui.
Bonsoir, Mehdi.
Bonsoir.
Mehdi, est-ce que tu as le haut-parleur?
Non, je n'ai pas le haut-parleur.
Lis la radio, hein. Est-ce que ce n'est pas, oui. C'est pas le truc là, qui est allumé, Zach?
Peut-être, je ne sais pas.
Alors, on est en train de regarder ici. Je crois que c'est ça qui est allumé. Parce qu'hier, il l'a mis à fond, Tariq. Voilà, on est en train de régler un petit problème. Peut-être que ça vient de chez nous. Hein. Il y a des.
Non, ça vient sûrement d'ici parce que justement, non. J'étais sur la radio en même temps, mais elle est indisponible.
Éteins ta radio. Hein.
Ben justement, j'ai essayé. Là, je sais pas si j'arrive pas.
T'arrives pas à éteindre la radio?
Ben, pourtant, je l'ai fait, mais.
Vous êtes bizarres, les auditeurs. Wallah al-Azim. Toi, ta radio, elle s'éteint pas. Leïla, c'est son haut-parleur qu'elle n'arrive pas à éteindre. Et toi, c'est ta radio.
Voilà, donc.
Yachanti, Abeltoni. Alors, c'est bon, là?
Ben, si vous m'entendez, ça va, ben, je vous entends.
Je t'entends, ça résonne, mais je t'entends. Ouais.
Ah, désolé pour la mauvaise. Pardon.
Très bien. Donc, alors.
Voilà. Eh bien, à la rigueur, moi, pour le sujet, là, c'était intéressant pour rebondir là, sur l'auditrice qui a parlé de la maladie de son frère. Là.
Son frère qui est schizophrène, oui.
Oh, voilà, enfin bon. Vous savez, les maladies avec la société, qui va à volo.
Non, la schizophrénie, elle existe depuis toujours. Hein. Du plus loin que je me souvienne, j'ai vu des schizophrènes. Hein. Non, la schizophrénie, c'est une maladie mentale, comme d'autres maladies mentales. On ne va pas dire que c'est la faute de la société actuelle. Hein.
Mais vous savez.
Après, non, mais ce n'est pas ça. Mais comment faire pour gérer cette maladie? Parce qu'elle dit. Justement. Est-ce que toi, tu as des connaissances là-dessus?
Moi j'ai des pratiques qui pourraient servir justement à des personnes qui encombrent des fois des établissements de ce genre et qui pourraient avoir quelque qui pourraient grâce à ce traitement c'est un traitement je vous expliquerai.
Alors on donne pas de traitement à l'antenne, hein, je te dis tout de suite.
Je ne suis pas médecin.
Voilà, on donne pas de conseils médicaux, hein, les médecins sont là pour ça. Voilà,
mais
d'accord.
Vous savez, il faut se faire mal des fois dans le sens du terme. Moi par exemple, pour éviter de contracter la grippe ou des maladies hivernales. Ce que je faisais, même en
hiver. Ah, ben la grippe, c'est autre chose, c'est pas pareil.
Non, mais attendez, je vais vous expliquer. Eh bien, douche froide dès le matin.
Non, mais il faut être sérieux, là. Excuse-moi, t'es pas sérieux, là. Là, on parle quand même d'une maladie sérieuse, la schizophrénie, qui est une maladie mentale reconnue. Par l'OMS, reconnue internationalement, une pathologie très lourde. Tu compares ça à une grippe, tu dis, prendre une douche.
dans vos livres, dans votre livre sacré, qu'il est indiqué que l'eau a des vertus.
Non, mais bon, c'est pas ça. Non, mais inventé, on parle d'une maladie mentale, on parle pas de d'un rhume.
Si vous mettez, il faut que ça soit spécifique. Il faut pas que ça soit fait n'importe comment à certains points du corps humain. Et je vous
c'est pas le corps, c'est la tête. Il est malade. C'est une maladie mentale.
Les points du corps humain, à savoir l'arrière de la tête, il faut que ça soit spécifique. Je peux vous dire que ça serait efficace. Enfin, les gens maintenant.
Bah écoute, va dire ça à des psychiatres, tu verras comment ils vont te répondre.
Écoutez, bah justement, je ne voudrais pas parce que ça fait fonctionner tellement la sécurité sociale.
Non, t'as pas le droit de dire ça. Alors, je suis obligée de pas te laisser continuer. Je suis désolée, hein, mais c'est un sujet qui est trop sérieux pour laisser ce genre de conseils ou d'idées, je ne sais quoi passer, ce genre de message qui me semble trop léger pour aborder un sujet aussi grave, aussi sérieux que la schizophrénie, qui est une pathologie psychiatrique chronique, d'accord, et qui est une maladie complexe. Ok, donc on ne peut pas aborder ce sujet avec autant de légèreté et en disant que les médecins, oui, la sécu, tout ça, c'est pas possible. Non, on peut pas se substituer à la médecine, aux professionnels qui font de longues recherches pour justement essayer de trouver des remèdes, de comment, de quelle manière aborder les sujets. Voilà. Donc Mehdi, non, tu n'es pas du tout dans le... Non, c'est pas possible. C'est pas possible de donner de tels conseils. Je ne peux pas laisser passer ça. Voilà, 01 53 48 3000. Donc notre amie, elle voulait juste savoir si vous aviez dans votre entourage un membre de votre famille qui lui-même souffre de ce trouble mental. Et comment vous vous en sortez, quoi. Voilà ce qu'elle voulait savoir. Pas trouver des remèdes. Remède, ils savent très bien, puisque son frère souffre de cette maladie depuis longtemps et qui passe par des médecins. Et on a la pause, d'accord. On va marquer une petite pause et on revient avec vos appels. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
01 53 48 3000. Allez, on se réveille, c'est Ramolo ce soir. Hein. Voilà, la maladie de la schizophrénie. Hein. La schizophrénie est une vraiment pathologie très compliquée, hein, très complexe, hein, vraiment. Hein. Et c'est pour ça que justement on peut pas donner des conseils sur voilà. En tout cas, moi je laisse pas passer les messages, désolé, concernant les remèdes, etc., de grand-mère ou des méthodes de je sais pas quoi. Voilà, hallucinantes, hein, qui sortent du cadre médical. Ça ne passe pas. Je suis désolée. Non, on peut donner des conseils dans le sens où comment... peut-être si vous avez des conseils, si vous êtes passé par là, juste apporter vos témoignages, hein, tout simplement. Mais donner des conseils de... Voilà, on a Myriam, elle nous appelle de la région parisienne. Bonsoir Myriam.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, bienvenue, Mariam.
Enchantée. Hein.
Enchantée aussi, bienvenue à toi. Alors, tu voudrais nous parler de la schizophrénie?
Oui.
Ouais.
Oui.
Alors,
j'ai un garçon de 22 ans.
Tu as un fils de 22 ans?
Voilà.
Qui lui-même souffre de cette pathologie?
Oui.
D'accord. Et oui. Donc, et depuis combien de temps? Quand elle a été décelée?
Ben, en prison, malheureusement.
En prison, ah ouais. Il y a combien de temps?
On va dire 2017.
Ça fait quelques années, là. 18, 19, 20, 21, oui. 22, ça fait 5 ans environ, c'est ça?
Voilà, au début, pour nous, c'était une hyperactive, impulsive.
Oui.
Ils nous ont proposé des traitements. Bah là, malheureusement, on a refusé. C'était à l'hôpital de Garches. C'était la rétaline.
Vous avez refusé le traitement?
Oui.
Aïe.
C'était un traitement qui agit beaucoup sur le cerveau. On a demandé beaucoup d'avis aux gens.
Et c'est pas les gens, c'est les médecins.
Ah, on a fait une erreur. Hein.
Ah oui, tu vois, regarde, comme ce soir, moi je l'ai coupé, hein, l'auditeur.
Je conseille les parents à voilà, accepter les traitements.
Ouais.
C'est pour ça que je témoigne aujourd'hui. Hein.
C'est bien, bravo, merci après, en tout cas.
C'est pour la bêtise qu'on a fait, nous.
Donc vous avez refusé le traitement parce que vous avez écouté les gens, malheureusement.
Voilà, c'était un médicament qui agit surtout sur le cerveau.
Mais oui. Mais oui.
Voilà.
Mais c'est les médecins, ils savent ce qu'ils font. Et donc, les premiers symptômes, il était incarcéré.
Voilà.
Oui, ben oui, ça fait un électrochoc. Hein, il n'a pas supporté l'incarcération. Mais s'il était incarcéré, c'est qu'il y avait une raison aussi. Et donc, il est resté en prison combien de temps ?
5 ans.
5 ans. Donc, durant 5 ans. Et là, il est sorti ?
Oui.
Il est toujours schizophrène ?
Oui.
D'accord. Et comment vous...
C'est dur, hein. Je ne vous cache pas, c'est fatigant.
Hein. C'est compliqué, hein. C'est une maladie.
Oui. Oh, oui.
On ne voit pas le bout. Hein.
Oui.
C'est compliqué. Il vit chez toi ?
Oui. Ah oui.
Non, oui, je comprends. Et comment ça se passe ? Comment ça se traduit ? C'est à quel stade ? Oui.
Très dur, oui.
Donc, quel est son comportement au quotidien ?
Ah, c'est un enfant aimable, très gentil, souriant.
Oui. Et quand il est en état de crise ?
Ah là, il ne faut pas trop le rechercher. Hein.
D'accord.
Il faut le laisser calme. Moi, j'ai participé à beaucoup de séances de profanie. Vous voyez, c'est quoi ?
De ?
Profanie.
Ah,
c'est des réunions de parents schizophrènes, voilà. Une grande réunion.
Oui.
Il y a plusieurs parents qui viennent, on discute, on parle. C'est tous les une fois par mois.
D'accord.
Voilà, une fois par mois. Là, je conseille à les parents aussi. Hein. On apprend beaucoup de choses. Hein.
Alors, ça s'appelle comment ? Réunion
de.
Ça s'écrit comment ?
P-R-O.
P-R-O.
Famille.
F-A-N-I.
Famille, F-A-N-I.
Ah, pro-famille. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah non, mais c'est bien de le dire parce que ça peut donner.
Il faut appeler l'hôpital de Colombes.
Alors, donc, tu assistes à ces réunions et donc.
C'est une fois par mois, on a une réunion. Je pense à jeudi. Hein.
Alors,
un jeudi après-midi de 13h jusqu'à.
Alors, je regarde, je vois réunion d'information. Ils disent. Alors, Profamie permet aux aidants familiaux de mieux réagir face à la maladie de leurs proches souffrant de schizophrénie, ou troubles apparentés. C'est bien.
Voilà.
Oui, ah oui, c'est bien, bien, parce que les gens sont perdus en général.
Là, on parle de tout, du traitement, de tout. Hein.
D'accord. Ah oui, ça, c'est formidable. Alors, pour notre amie Leïla, tiens, je reprends Leïla. Leïla, tu es toujours là ?
Oui, j'entends.
Ouais. Tu entends. Est-ce que vous avez connaissance dans la famille de ce genre de programme, de ces réunions pro-famille ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que on a tous un petit peu notre vie privée.
Ah, on n'entend pas très bien. Je ne sais pas si c'est l'une ou l'autre.
On a tous. Vous savez, une vie familiale, etc. Et c'est vrai que j'ai beaucoup soutenu mon frère à chaque fois que j'ai des crises. Je le ramenais à l'hôpital, j'appelais le CAS, je viens le récupérer. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup penché sur la question des associations. Mais c'est ma mère qui est en train de toucher le fond. Et du coup, avec ma soeur, on est en train de faire le nécessaire.
Alors, je pense que c'est à vous de prendre les choses en main. Parce que ta mère, je pense, c'est une maman. Et je pense qu'elle est d'une génération, malheureusement, c'est une mère, hein, elle essaie de trouver les solutions. Mais elle est d'une génération avec des croyances un petit peu archaïques, c'est malheureux à dire, c'est peut-être péjoratif, archaïque, mais je trouve pas d'autres mots. Le fait de trouver une solution qui n'en est pas une, elle a fait qu'enfoncer le clou et ajouter une couche à sa maladie et faire une autre victime en plus dans l'histoire, qui est cette jeune femme qu'elle est partie, comme tu as dit, chercher au bled pour le marier. Alors, t'imagines ? Donc, non, c'est plus à ta maman de prendre les choses en main. Je pense qu'elle est noyée dans ce problème. Pour elle, elle imagine pas que son fils est malade. Parce que j'imagine que ta mère, la génération dont elle fait partie, elle croit que c'est Junoun ou l'âme drôme ou l'âge.
Voilà, c'est ça. Oui.
Elle est belle.
Oui.
Je sais.
Oui.
C'est pour ça. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des enfants.
Il n'y a que le traitement, hein. Il y a que le traitement qui peut l'aider. Hein.
Bravo, Myriam. Il n'y a que le traitement.
Il n'y a que le traitement. Moi, je suis là, je ne vous cache pas.
Bravo. Tu entends, oui, Yaïla, tu entends, Yaïk.
Oui, oui, j'entends.
Voilà. Parce que y a des... nous, dans notre culture, je veux dire, on... Bon, aujourd'hui, les jeunes, heureusement, les jeunes générations, qaraou, etc., s'informent, et heureusement. Mais les anciennes générations, schizophrénie, non, ça ne leur parle pas. Mais Alfouche, où j'ai qu'on luc ? Parce qu'avant, il y avait des malades de schizophrène depuis tout le temps, depuis des générations. Mais au lieu de les soigner, ils disent des, je ne sais pas, talab, etc. Ils qu'on luc, miskoun, adou djnoun, darbo djnoun, tu vois ?
Oui.
Oui.
Voilà, je peux vous raconter une petite histoire.
Vas-y, Myriam, hein, c'est ça ?
Oui, Myriam, oui, oui.
Oui,
alors, moi, je suis née en France.
Oui.
Voilà, Boulogne-Billancourt. Et j'ai un frère, il a été scolarisé avec le chanteur Booba.
D'accord. Ah oui.
Sur Boulogne-Billancourt, hein. Lui, il était scolarisé là-bas aussi. Hein.
Ah oui.
Alors, okay. Moi, j'avais 7 ans, mon frère, il avait 10 ans. Non, 11 ans. Hein. Mon père a décidé de quitter la France pour aller vivre en Algérie.
Ah.
Non, mon frère, il avait 12-13 ans. Hein.
D'accord.
Et mon frère, il est schizophrène. Hein. C'est pour ça que je comprends bien la maladie. Hein.
Bien sûr. Alors, ton frère... Parce que tu as un fils qui est schizophrène aussi.
Voilà, oui, oui, oui.
Mais alors, là, tu vois, je me pose la question, est-ce que c'est... Il n'y a pas une question de génétique, là, du coup.
Oui,
est-ce que la
oui,
prison oui, oui. n'a pas été un facteur déclencheur, tout simplement ?
Oui.
Hein, que c'était oui. latent et que ça attendait juste...
Non, il n'y a pas ça.
Vas-y,
pas
ma
ça.
Chérie.
Il y a pas ça. Il y a la consommation de cannabis, attention.
Hein. Ah, Imal Habiba. Ah oui, c'est ça, alors. Ça...
Il faut...
Ah, oui.
Moi, je pense que Là, ils ont proposé la Ritaline. On aurait dû l'accepter. Hein. Moi, mon fils, quand il était en crise et tout, il a trouvé un bien sur la consommation du cannabis.
Oh là là.
Vous voyez, c'est comment ça a aggravé la...
Bien sûr, ça atteint les neurones, là, le cannabis.
Wow.
Ça atteint les neurones. C'est une drogue. Oui. Alors qu'un hypnologue, c'est de la drogue douce. Ou je sais pas. Il n'y a pas de drogue douce. C'est pas possible.
Non.
La drogue douce,
non,
ça n'existe pas. La drogue, c'est la drogue.
Oui.
D'ailleurs, il commence par ça et après il termine par je sais pas quoi.
Oui. Après, quand on y est, je veux finir l'histoire. Quand on est parti en Algérie, vers là-bas, mon frère il a pété un câble. Alors il y avait la grand-mère, la femme, elle est décédée. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire ? C'est de les emmener dans les zaouïa et tout.
Zaouïa. Je sais, je vois.
Voilà,
on est issus de la même culture, alors je vois, hein, je connais hein, ce problème. Ouais.
Ah, parce que moi je suis d'Oran. Hein.
Ouais. Alors, donc, quand ils l'emmènent dans ces endroits-là, donc, c'est des époques archaïques, tu vois, ancestrales.
Voilà, les années, moi je parle des années 80.
Oui. Mais il y en a encore aujourd'hui qui le font. Pour
oui,
eux,
oui,
ils n'arrivent pas à admettre que c'est une maladie. Pour eux,
voilà, après, ils disent voilà, ramener une chèvre noire, ramener un mouton.
Et voilà.
Ce qu'il
y en a, la pauvre chèvre, encore une victime.
J'avais 9 ans, je me rappelle. Et je vous cache pas, mon frère, on voyait pas une amélioration. Son état de santé mentale s'est aggravé de plus en plus.
Bah, bien sûr.
Voilà. Et c'était l'erreur qu'ils ont fait.
Oui, c'est le problème, il est là. C'est que dans certaines cultures, ils se sont arrêtés à des fausses croyances. Parce que
voilà.
Un schizophrène, Bayen. Je veux dire, on voit les signes d'un schizophrène. Il a des hallucinations, il entend des voix. Alors quand il entend des voix, avec Jenny Asknetto, quelle ma Jenny, il est malade. C'est des hallucinations. Alors au lieu de recourir à la médecine, à des professionnels, des psychiatres. Moi j'ai ramené un psychiatre. Yacine, s'il est à l'écoute, Yacine Maïbaï, qui est un très bon psychiatre. Hein. Et d'ailleurs on était en contact. Ben, il est en Normandie, là. Avant, il était à Paris. D'ailleurs, je l'invitais à chaque fois, il venait. Mais il peut vous donner vos indications. Ce que je vais faire cette semaine, je vais l'appeler. Je vais l'inviter.
D'accord.
Et la semaine prochaine,
moi,
il se libère.
Là, j'ai un problème avec Vanessa. Ben,
oui.
Voilà. On finit l'histoire ou?
Vas-y. Kimley.
Voilà.
Vas-y,
voilà. Moi, ce que je conseille les gens à éviter d'aller voir à droite, à gauche, et c'est le traitement. C'est le traitement qui peut les aider.
Oui.
Sinon, le reste, c'est rien. Hein. C'est pas vrai. Hein.
Ben oui.
Moi, mon frère, il a son état de santé mentale, il s'est trop dégradé. Voilà.
Ben oui.
Et ce que je ne comprends pas ici en France, moi, mon fils, il est sorti.
Oui, oui.
Il a une injonction de soins.
Il a ?
Oui, c'est bon. Injonction de soins.
Injonction. Ah oui, il est obligé de se faire soigner, quoi.
Voilà.
Oui.
Mais quand je vais voir les... Là, il est suivi dans un CMP.
Oui.
Mon fils, il a raté deux fois le rendez-vous.
Oh là là, mon Dieu. Ouais, ça, c'est...
Et comme il a raté deux fois le rendez-vous, ils ne veulent plus le prendre.
Mmh.
Rien. Et moi, quand je me dirige vers d'autres psychiatres privés, quand ils voient que voilà, il y a une injonction de soins qui vient de la juge, ils n'aiment pas les prendre. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce que...
Comment ça?
Ben, voilà, il y a une injonction de soins par le juge et tout. Il faut mieux aller voir les CMP. Mais moi, mon fils, il est refusé par le CMP.
D'accord.
Là, je suis perdue.
Alors, il faut que tu sois à l'écoute la semaine prochaine. Je vais appeler ce psychiatre, ce médecin psychiatre, qui est vraiment très efficace. Hein. Je me souviens qu'il avait donné de bons conseils.
Donc, ne veulent pas
alors, il sera à l'antenne. Vous lui poserez des questions. On va parler, on va aborder le sujet de la schizophrénie. Et il va vous conseiller, vous donner des indications, où aller, comment, etc. C'est important.
D'accord.
Oui.
Alors,
ça sera la semaine prochaine. Alors, je connais pas ces... je sais pas, je peux pas vous dire, hein, parce que je sais pas quand est-ce qu'il sera disponible. Hein, je connais pas ses disponibilités. Mais je vais vous le dire cette semaine. Et je vais essayer d'appeler demain. Hein?
D'accord.
D'accord. Là, tout de suite, non? D'accord. Ok, Mariam, en tout cas, c'est très bien que tu en aies parlé ce soir à l'antenne. C'est bien.
D'accord.
Et Leïla, tu es à l'écoute, Leïla?
Oui, tout à fait, ouais, j'écoute.
Tu as entendu? Donc, elle nous a parlé tout d'abord de ses réunions.
Réunions en famille.
Interfamiliales, intrafamiliales, je ne sais plus comment on peut les appeler. C'est pro-famille, hein, c'est ça, pro-famille.
Elle est de quelle ville, Leïla?
Alors, Leïla, elle est à Saint-Étienne.
D'accord, ben voilà, avec l'hôpital de Saint-Étienne.
Donc c'est partout en France, dans les hôpitaux.
Voilà, mais il faut voir le psychiatre. Hein.
Ah oui, ben oui, je suis d'accord avec toi. Tu vois, Myriam, tu as fait ton mea culpa, tu as dit oui, on a fait l'erreur de le laisser arrêter son traitement.
Oui.
Voilà, tu reconnais. Oui. Mais c'est bien éclairer nos amis qui sont à l'écoute, qui eux-mêmes peut-être ont des membres de leur famille.
Le mien, il était hyper actif. Hein.
Ah oui. Ah oui, mais. Ouais, non, mais... C'est une seule maladie. Hein. Leïla, oui, tu disais
après, moi, mon frère, le problème qu'il a, c'est tout simplement, il disait oui, je suis schizophrène, je reconnais ma maladie, je prends mes médicaments, j'accepte que vous allez voir un psychologue. Mais lui, il refuse toute démarche. Pour lui, il n'est pas malade.
Et pour lui, il n'est pas malade.
Ouais, on trouve des
aliments. Oui, mais non, c'est normal. C'est normal.
Il crache dans son médicament, dans la nourriture, en lui-même. Mais des fois, il prend, des fois, il ne prend pas. Des fois, il comprend qu'on a mis quelque chose, donc il pète un câble. C'est vraiment.
Ouais. Non, mais c'est normal, ça, c'est les effets de la maladie. C'est le refus, le déni.
Ouais. On a entendu parler d'une piqûre et qu'il faut qu'il se fasse piquer pour que ce soit plus stable, alors que les médicaments, c'est tous les jours et c'est beaucoup plus contraignant. Et c'est vrai qu'on n'est pas soutenu. Mais je vais aller voir les associations de récupérer des
On ne parle pas suffisamment de cette maladie, c'est vrai. Hein.
Oui.
Ouais,
oui.
Alors qu'elle est très présente dans la société. Leïla, curieusement, qu'est-ce que vous avez fait de cette femme que vous avez ramenée du pays? Qu'est-ce qu'elle est devenue?
Leïla l'a ramenée.
Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette femme? Ne pars pas, Mariam, hein, je te reprends. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette femme, Mskina? Elle est dhriya, Comment? Qu'est-ce que vous avez fait d'elle?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que cette femme, avant de se marier avec mon frère, elle est restée un an et demi fiancée avec lui. Et c'est vrai qu'elle n'a jamais voulu prendre contact, l'appeler, parler via les réseaux sociaux. Elle n'a jamais vraiment voulu apprendre à le connaître. Et à chaque fois qu'elle a vu mon frère, elle l'a vu tomber, pas bien, et qu'il faut aller tout seul. Et elle ne s'est jamais vraiment posé la question. Mes parents ont pris l'initiative d'en parler à ses parents, mais son père n'en a pas parlé à la jeune fille. Donc la jeune fille en question maintenant, elle se refuse physiquement à mon frère.
Bah, c'est normal.
La situation, parce que mon frère, du coup, ils se sont rejetés et il se sent encore plus, il est encore plus bizarre entre guillemets. Et elle maintenant, tout ce qu'elle demande, c'est voilà, elle supporte, je pense, de venir en France, quoi. Mais voilà.
Non, mais c'est bon, elle, Mskine, elle veut son bizarre. Mais c'est normal qu'elle se refuse à lui. Attends, il... Marie, Mskine, comment tu... C'est... Leïla, ne pars pas, ma chérie. Hein. Je prends juste après, on a une petite pause, à tout de suite. 01 53 48 3000, nous sommes ensemble, confidence sur Beurre FM, jusqu'à 23h. Et ce soir, eh bien, nous abordons un sujet qui est, ma foi, très, très, très sérieux. Vraiment, la schizophrénie, je pense que beaucoup connaissent ce que c'est que cette maladie, hein. Voilà, et d'autres qui refusent, encore une fois, puisqu'on l'entend, de donner un nom à cette maladie et de suivre les avis médicaux. Et Mariam le dit très bien, puisque son fils, eh bien, était atteint de cette maladie durant 5 ans. Et elle dit, on a fait la bêtise de le laisser arrêter, stopper son traitement, et ça n'a fait qu'empirer. Alors donc, il faut jamais, jamais, jamais arrêter un traitement pour ce genre de maladie. C'est des pathologies qui sont très lourdes, parce que le sujet, le patient devient dangereux pour lui-même ou pour autrui. C'est très dangereux, c'est vraiment inconscient, vraiment, de le faire. Mais c'est bien parce qu'elle l'a reconnu, et tant mieux qu'elle l'ait dit ce soir. Je la remercie d'avoir appelé, parce que ça va justement donner pas mal d'idées à beaucoup de gens qui aujourd'hui ne savent pas comment aborder cette maladie à travers un proche, parce que la personne par elle-même, elle se rend pas compte, elle se pense pas malade. Elle se pense pas. Tu sais, quand on est dans son monde, on pense que c'est les autres qui sont pas normaux. C'est comme ça.
Voilà,
c'est vrai ou pas, Mariam?
Oui.
C'est ce que ton fils, pour lui, c'est vous qui êtes à l'ouest, oui. Pas lui.
Oui.
Eh oui. Oui. Ou alors il était incompris pour lui.
Voilà.
Donc voilà. Et
voilà. J'ai aussi une question à vous poser.
Oui.
Voilà, les prisons. Vous savez qu'il y en a plein qui sont malades.
Oui. Hein. Ah ben l'enfermement.
Ouais, il y a pas d'association, il y a pas d'aide, hein, pour les handicaps. C'est un handicap, hein.
C'est un handicap.
Je comprends pas pourquoi ici en France il y a pas d'association qui peut aider à voilà.
Ouais, ouais. Ils ont d'ailleurs, j'invite de temps en temps un aumônier. Mais un aumônier n'est pas un soignant. Un aumônier n'est pas un spécialiste en maladie, etc. Donc il vient, il apporte un peu de soutien, etc. Mais comme tu dis, c'est très bien de soulever ce problème. Il serait bien qu'il y ait des... Je demanderai à notre psychiatre la semaine prochaine, on lui posera beaucoup de questions. Comment, oui.
Voilà, les gens, pourquoi qui, voilà, les jeunes, il y en a plein qui sont incarcérés, hein.
Oui.
Ils ont cette maladie.
Oui, oui.
Mais je vous cache pas, vous savez, ils passent où leur temps?
Non.
Au mitard. Oui.
Oui, parce qu'ils se bagarrent, tout ça, c'est ça.
Parce que moi, pendant les 5 ans, j'ai vu beaucoup de choses, hein.
Oui.
Et je vous appellerai quand il sera là, le psychiatre, hein.
Oui, il faudrait l'appeler.
Et
lui poser des questions.
Beaucoup.
C'est bien. Et lui poser des questions. Et peut-être qu'il a la réponse. Et c'est vrai que c'est dommage que dans les prisons, il n'y a pas de spécialiste. Les aumôniers, c'est bien, mais un spécialiste, il ne peut pas guérir.
Et moi, ce que je ne comprends pas, un schizophrène dans la prison, vous savez, tout ce qui est médical, c'est confidentiel. Hein.
Oui.
C'est très confidentiel. Hein.
Des fois,
le malade, par exemple, il va traiter le surveillant d'un, je sais pas, il va dire un gros mot.
Oui.
Ou soi-disant, il va essayer de taper, ou soi-disant, il l'a regardé mal.
Mm-hmm.
Vous savez que les surveillants ne savent pas qu'il est schizophrène.
Ah bon? Tu crois? Tu penses?
Ah oui, si. Ah si, j'en suis sûre. Hein. Apparemment, ils disent que c'est confidentiel. C'est quand il y a plusieurs incidents, c'est là où
Oui. Mais enfin, ils savent très bien, parce qu'ils prennent des traitements, et c'est les surveillants qui leur donnent des traitements.
Oui.
Donc, je pense qu'ils savent, hein. Ils disent qu'ils ne savent pas, mais je pense que les surveillants savent quand même. Non,
c'est pas les surveillants. Non, c'est l'infirmière. Il y a une infirmière pour chaque.
D'accord.
Voilà, pour chaque. Bah,
oui, malheureusement, je crois qu'ils sont dépassés. Et que économiquement parlant, il y a peut-être plus les moyens, mais dommage qu'il n'y ait pas de psychologues,
oui,
moi je dis.
Moyens.
Des psychologues, voilà, qui passent dans ces endroits. Il y en a qui vont dire, parce qu'il y en a qui sont dans le jugement, qui vont dire, oui, mais enfin, s'ils sont là, oui, on n'en est pas là à dire s'ils sont là ou pas, ils ont été jugés, il y a une justice, elle est là, voilà. On n'est pas dans le jugement, j'ai envie de répondre à ces gens. J'ai envie de leur dire, oui, ils sont là. Khlas, ils ont fait une bêtise, ils sont là. Qu'est-ce que c'est? On va les tuer? Non. Ils sont là, pour un temps, ils purgent leur peine, mais en attendant, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains, donc on peut pas nier le fait que ce sont des êtres humains et les considérer comme tels, comme des êtres humains. C'est-à-dire que s'il y a des êtres humains qu'on considère comme des êtres à part, ça veut dire que l'humanité, elle part en vrille. Le problème, il est là. Un être humain, d'ailleurs, dans les en justice, même le pire des criminels, il a droit à un jugement. Un jugement, eh bien, en bonne et due forme. C'est ça une société. Une société normale, une société moderne, parce que avant c'était œil pour œil, dent pour dent, voilà, celui qui on n'en est pas. Il y a des contrées dans le monde où le voleur, on lui coupe la main, l'autre il a fait, je sais pas quoi, on le pend. Non, ça c'est des sociétés archaïques, moyenâgeuses. Non, aujourd'hui on sait très bien que nous vivons dans un monde d'abord il y a dans les lois. Il y a de l'humanisme dans les lois, et tant mieux. Donc, ces gens qui sont derrière les barreaux, ce sont des êtres humains comme les autres. Voilà.
Voilà.
Maintenant, il y en a par accident, d'autres, ils ont fait des bêtises, d'autres, etc. On n'est pas là pour juger. La justice, elle fait son travail. Mais nous, on est là pour essayer de comprendre et surtout de ne pas enfoncer les autres. Parce que là, on se démusumanise, vraiment.
Vanessa, ils ont besoin d'aide, hein. Moi, je vous le dis.
Je sais, Msakana. Elle est belle. Tu sais qu'on est très écoutés, hein, Ismaona. Moi, de temps en temps, Wahadi m'appelle, même du mitard, le pauvre.
Vous savez, je pars jusqu'à. Mon fils, il était à Le Havre.
Oui.
Vous voyez, c'est où Le Havre? Et je partais.
Au Havre, oui. Tu partais toutes les semaines?
Oui. Presque toutes les semaines, oui.
Oh là 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 là. C'est ce que je leur dis. Je leur dis, c'est vos mamans que vous. C'est vos mamans que vous punissez. Msakana, les mamans.
Oui, c'est les mamans. Hein. Ah oui.
C'est ce que je leur dis, Nadam Ahoum, hein, parce qu'ils m'écoutent. Hein. Je sais que je suis très écoutée dans les prisons, donc je leur dis, vous savez que ce sont vos mamans que vous sanctionnez. C'est pire que toute la société, c'est vos mamans. Parce que les pauvres, elles sont obligées de se déplacer, de venir vous voir. Leur cœur, il se déchire, elles pleurent des larmes de sang. Elles sont vraiment malheureuses, vraiment. Elles se fabriquent des maladies, les mamans. Parce qu'une maman, elle ne peut pas abandonner son enfant, quoi qu'il arrive, et quoi qu'il ait fait. Donc, avant de faire quoi que ce soit, pensez à vos mères, bon sang.
Vanessa.
Oui, Mariam, oui.
Je comprends pas pourquoi il n'y a pas des. Normalement, ils ne devraient pas être dans des prisons, les schizophrènes. Hein.
Ben, c'est une maladie mentale, hein. Moi je pense que c'est, je sais pas, hein, c'est
adapté à, vous m'avez compris ou pas?
Oui, c'est des soins, oui, je comprends, c'est une maladie mentale.
La plupart du temps, ils sont dans le mitard, vous savez c'est quoi un mitard?
Ben oui, parce que dernièrement, il y a eu un jeune qui m'a appelé du mitard. Alors, il m'a expliqué ce que c'était, parce que je savais hein, ce que c'était, mais il m'a bien expliqué.
Il m'a raconté, hein.
Oui, comment?
Quatre murs, mon fils, il m'a raconté après le...
Quatre murs, hein, il m'a...
Il n'y a rien.
Oh là 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 là.
La promenade, il est tout seul.
Ah oui.
Voilà, il parle avec les murs.
C'est terrible.
Pas de rien.
Ouais. C'est terrible. Je ne sais pas si un jour. Je pense, tu sais, parce que j'essaie toujours de. Je suis quelqu'un qui. J'essaie toujours de penser et réfléchir et à rêver d'un monde idéal. Et je pense, hein, Mariam, peut-être que je me trompe, peut-être pas. Je pense que d'ici, peut-être pas tout de suite, parce qu'on est encore très loin, peut-être dans 50 ans ou un siècle, hein, je ressens les choses, je me dis peut-être que les prisons vont disparaître et il va y avoir d'autres formes de prise en charge.
Voilà, des centres éducatifs.
Voilà. Bon, je parle pas de ceux qui font des crimes de sang crapuleux, qui tuent les gens et le terrorisme, etc. Ceux-là, je parle même pas d'eux. Bien entendu qu'il y aura toujours des cachots et des prisons pour eux. Et c'est ce qu'ils méritent. Parce que quand on ôte des vies, quand on commet le pire, vraiment, le pire des ignominies, de tuer des vies humaines, et on a vu ce qui s'est passé avec le terrorisme et ceux qui tuent des enfants, etc. Hadou, ils méritent, bien sûr qu'ils méritent. Ça, il y aura toujours des cachots pour eux. Ça, c'est certain. parce qu'il faut les mettre vraiment loin de la société, les isoler. Mais oui, je parle des jeunes, comme ton fils, etc. Alors, ceux-là, ils sont très nombreux. Je pense qu'il va y avoir, à la place des prisons, il va y avoir des structures pour les réhabiliter à vivre dans la société. Tu comprends ? Je pense, hein, je pense. Mais il faudrait qu'il y ait moins de monde sur Terre, parce qu'on est trop nombreux, donc ce qui fait qu'on est dépassé partout. C'est pour ça que l'économie, c'est très compliqué. Et si les gens font moins d'enfants, eh bien, je pense qu'on aura la possibilité de venir en aide à ceux qui, malheureusement, basculent à un moment donné et glissent, comme ton fils. À un moment donné, parce qu'il y a des fréquentations, etc. C'est pas des mauvais bougres, c'est pas des méchants. C'est juste qu'à un moment donné, bon, ben, voilà. Mais ceux-là, ils sont rattrapables.
Voilà.
Ils sont rattrapables. Et je comprends ton cœur de mère, ma chérie.
Oui.
Or, Bémaïk. Parce que il n'y a qu'une maman qui peut comprendre ces choses-là. Et ne ressent la douleur de la braise que celui qui a posé le pied dessus. Et c'est difficile pour toi parce que tu as vécu 5 ans. Howa, il était enfermé, toi, tu étais doublement enfermé.
Oui.
Et maintenant qu'il est sorti, il n'est pas tout à fait sorti parce qu'il est enfermé dans sa maladie.
Oui.
Et toi, tu es encore enfermé avec lui. Celui qui ne te comprend pas, bah, je vais dire une chose, ou il est égoïste, ou il n'a rien compris, ou alors il pense que ça ne lui arrivera jamais. Si, ça peut arriver à n'importe qui.
N'importe qui.
Exactement, parce que tu n'as pas choisi. Tu as donné une bonne éducation à ton enfant, tu lui as donné de l'amour. L'arelbe. Voilà, il a, même fait des il a fait des mauvaises rencontres, certainement. Et voilà, et comme je dis, faut jamais dire c'est la faute des parents, parce que des fois, il y en a qui disent c'est les parents. Non, quel parent il veut que son enfant...
malade, oui.
Voilà, c'est pas possible. Mariam, je vais te garder, Mariam, s'il y a des personnes qui veulent échanger avec toi, hein, parce que tu as de bons conseils, en tout cas. Ne pars pas, Mariam, ok ?
D'accord.
Merci, à tout de suite. On a Gino qui nous appelle de Nice. Bonsoir, Gino.
Comment va, Vanessa ?
Bah, écoute, ça va, je te remercie, Gino. Est-ce que tu écoutes
dans
un petit peu ?
Schizophrène, là.
Est-ce que tu écoutes ce qu'on dit ?
Secondes.
Alors ?
De musique.
Non.
5 secondes pour vous.
Alors, ça passe pas, Gino, parce que nous, on est une radio, déjà, on a de la musique. Alors, si tu mets ta musique, ça peut pas le faire. On va prendre un appel, mais juste avant, on marque une petite pause. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou, avec Vanessa sur Beurre FM.
Au 01 53 48 3000, on est avec Mariam. Et la Malika, Malika nous appelle du 92. Bonsoir Malika.
Et bonsoir Anissa.
Bonsoir, éteins ta radio Malika, s'il te plaît, ou le haut-parleur, s'il te plaît.
Et le haut-parleur.
Voilà. Voilà, il faut le couper. C'est bon ?
Oui, là c'est bon.
Voilà, très bien. Très bien. Bienvenue Malika, on t'écoute ma chérie.
Oui, je voulais parler de la maladie. J'en ai connu autour de moi.
Oui, des schizophrènes, des personnes qui souffrent de schizophrènie.
Il y a une autre maladie qui se ressemble à ça.
Oui, oui, c'est vrai.
J'ai oublié le nom, je ne sais pas si vous pouvez le trouver. Vous savez, les gens qui font des crises et qui tombent par terre.
Ah oui, et l'épilepsie, je crois.
Voilà.
Ah oui, oui.
Ouais, ça aussi, c'est assez c'est dangereux,
hein.
Quand même.
Ouais,
c'est très dur.
Ouais.
À l'époque, j'étais en primaire et j'avais une personne dans ma classe qui était atteinte de cette maladie-là.
Oui.
Et il avait toujours un casque sur sa tête parce que quand il tombait, sa tête cognait à la récréation. Donc on lui avait prescrit un casque à l'époque des années 80. Et quand il tombait, comme ça, il risquait pas de se blesser au niveau de la tête.
Ah oui.
Ouais.
C'est triste, hein, c'est terrible. Hein.
Ouais, donc.
Oui, les maladies du cerveau.
Qu'il ne fallait pas le toucher.
Les maladies du cerveau, c'est terrible.
C'est très dur. Ouais.
Terrible. Il y a aussi cette maladie qui n'a rien à voir, mais c'en est une aussi, puisque c'est le cerveau, encore une fois. Le cerveau est un organe très, 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 très fragile, très sensible, hein, vraiment. Hein. Et c'est pour ça que c'est le moteur, hein, en fait, tout part de là. Hein. C'est comme la maladie d'Alzheimer dans un autre registre. La maladie d'Alzheimer, Les personnes
oui, ça,
qui
je les personnes par ma belle-mère à l'époque c'est très dur.
Hein, c'est dur aussi hein parce que
c'est très dur.
Une personne qui avait toute sa tête, toute sa vie, tu vois, qui a vécu avec avec dignité, dignement quoi, tu vois.
Dignement.
Donc toute sa vie et souvent eh bien ces personnes ont des enfin les personnes âgées ont des souvenirs hein, beaucoup plus que les jeunes, ils ont des, ils vivent à travers leurs souvenirs. C'est toute leur vie les souvenirs. Et puis on leur retire ces souvenirs. T'imagines la maladie, leur, c'est, elle les prive de ces souvenirs. Ils ont plus rien.
Ah c'est vraiment.
Ils ont plus rien. Des...
Ah, ils vous sortent des choses.
Ah
vraiment,
oui, ils reconnaissent plus. Ah ouais, ouais, c'est-à-dire que ton enfant, ton grand-père ou ta grand-mère ou la ta mère, elle te reconnaît plus. Elle reconnaît plus son enfant. C'est terrible. Hein.
Oui, oui, elle reconnaît plus, oui. Elle reconnaît les deux, trois personnes qui viennent tous les jours la voir.
C'est
elle reconnaît.
Oui.
Ouais, mais les autres qui venaient que les week-ends, elles s'en souvenaient pas.
Oui. Ouais. Et parfois, et ça dépend des cas, parce que parfois, tu as des filles qui te disent, il y en a qui vivent avec eux sous le même toit, et à des moments, ils ont des trous comme ça, des blancs. Et la personne qui vit avec eux sous le même toit, un matin, ils la reconnaissent pas, Agda. Et je sais plus qui c'est qui m'a raconté la semaine dernière une histoire comme ça. Je crois que c'est son, elle vit avec son fils, vit avec elle cette femme. Il vit avec elle, hein,
oui.
tout le temps avec sa mère et tout. Et un matin, elle le reconnaît plus. Alors elle a pris un objet, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est un couteau, je sais plus ou un objet. En tout cas, vous l'avez tué. Elle lui a dit, elle lui a dit qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes venu me tuer, me voler, je sais pas quoi.
Oui, c'est vrai.
Et c'est son fils qui vit avec elle tous les jours. Tu vois? Donc des fois ils ont des blancs, des trous. C'est une maladie, tu comprends rien. C'est un gruyère leur cerveau. Terrible.
L'Alzheimer, parce qu'il y en a qui sont violents et il y en a qui sont non violents.
Oui.
Il y a les deux. Et moi à l'époque j'ai connu une personne qui bon, il atteint l'Alzheimer. Lui en plus on le laissait tout seul. Et voilà. Un jour il a pris un genre de nage ou je sais pas quoi et puis il est parti casser les toilettes.
Oh là là.
Et ça a inondé toute la rue pavillonnaire.
Ah mon Dieu, ah ouais.
Et c'était un homme qui est devenu très violent, très très violent.
Ouais. Il change hein, du tout au tout. Hein, de c'est et, plus les mêmes personnes. Ouais. Le cerveau, c'est tellement mystérieux parce que tu as des personnes qui sont pudiques. C'est vraiment des personnes effacées parfois dans leur vie, ça existe hein. Des personnes pudiques et tout ça, et la maladie elle leur enlève tout ça et ça devient n'importe quoi. Ce qui est grave c'est que leur propre enfant parfois ils lui proposent des choses bizarres, tu vois, donc c'est très gênant pourtant, en famille et
pas,
tout.
Mais moi j'ai pas compris. C'est des personnes, vous savez, à l'âge de nos parents qui ont eu ça, parce que avant à notre époque on n'entendait pas ça.
Si ça existait, hein, on appelait ça des sénilité.
On n'entendait pas.
Il y avait un autre nom.
On n'entendait pas.
Si on les voyait des fois ils rejouent en quelqu'un, il est sénile ou draqlo. Il a perdu la raison. Ou Meskoun, tu vois, comme je disais tout à l'heure encore, Meskoun. Et t'en as qui disent...
Je voulais revenir au Meskoun, excusez-moi.
Voilà.
Parce que j'ai des membres de ma famille, j'ai vu de mes propres yeux, ils se transforment avec la voix d'un homme. C'est quoi ça exactement?
Il n'y a pas de Meskoun. Hein. Alors, tu vas arrêter avec ça. Hein. Non, non. C'est tout simplement. C'est ce qu'ils disent.
Des choses fausses, je connais rien.
Voilà, c'est ce qu'ils disent. C'est pour ça qu'ils induisent les gens en erreur et ils les rendent encore plus malades avec
le Yomanchur et tout ça. Mais ils sont quand même violents. Violents aussi.
Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a la schizophrénie, il y a l'Alzheimer, il y a toutes ces maladies mentales, le cerveau. Il y a plein de maladies du cerveau psychiatrique. Et donc ils se transforment. C'est pas qu'ils se transforment, c'est-à-dire que eux-mêmes dans leur délire, leur comportement il change, leur voix elle change, leur regard change et leur voix elle change.
Oui, voilà.
Parce qu'ils ils rentrent dans un délire.
Mais ça fait peur.
Ça s'appelle des bouffées délirantes. Ça fait peur pour l'entourage. Mais c'est des personnes qui ont des manifestations. Ça, c'est des comment on appelle ça? Ben oui, c'est des bouffées délirantes. Ils ont des idées délirantes. Donc, ils parlent différemment, ils se comportent différemment,
oui.
Voilà.
Oui, oui. Oui. Mais, j'en ai une connue qui, au début, on savait pas, pareil, on y pensait que c'était une muscuna. Et pieds nus, sa mère faisait des cours dans un centre commercial. Et quand même, il y avait presque une demi-heure de trajet. Pieds nus, les cheveux en l'air, qui est parti à Leclerc, qui lui a tiré les cheveux par terre et qui l'a frappé. Ouais. Et de là, on l'enfermait. Ouais.
Bah, ouais, tu sais, il n'y a pas que chez nous. Alors, moi, je tiens à dire, parce que nous, on parle...
Malika, je ne parle pas de toi.
Je parle de nous, parce que depuis tout à l'heure, moi-même, hein, je ne veux pas induire les gens en erreur, parce que souvent, on pense que... C'est-à-dire, dans notre culture à nous, il y a de l'ignorance et tout. Ce n'est pas vrai. C'est partout. Hein. Par exemple, dans d'autres cultures occidentales, eh bien... il faisait appel aussi à des guérisseurs pour ce genre de maladie et des exorcistes. Oui. Alors moi je tiens à dire, les exorcistes, il y a même des prêtres exorcistes qui des imams qui font la ruqya. La ruqya, on la fait pas n'importe comment. La ruqya, c'est quelque bon, c'est qu'on y croit ou pas, chacun fait comme il veut. Moi pour moi, c'est bon psychologiquement pour quelqu'un qui est bien, hein, si ça peut lui apporter. Mais il faut qu'il soit déjà bien dans sa tête, hein. Voilà. Donc c'est une prière, ça lui fait du bien, bon, psychologiquement, voilà. Mais il faut que la personne, elle soit pas malade. Alors donc, mais par contre, à partir du moment où à une personne qui souffre de schizophrénie, on la fait passer par un imam ou la cheikh ou la je sais pas qui pour soi-disant la guérir, il va lui en rajouter. Non, emmenez-la chez le médecin, chez un psychiatre, bon sang. C'est chez les occidentaux.
Le problème, c'est qu'ils acceptent pas les psychiatres.
Mais je suis en train de leur expliquer. Oui, je suis en train d'expliquer aux gens, il faut qu'ils acceptent. Chez les occidentaux, ils ont la même chose. Hein. Faut pas croire que c'est que chez nous. Non. C'est partout pareil. Chez les occidentaux, renseignez-vous. Il y a des maladies mentales, malheureusement. Pareil, il y a des gens, au lieu d'emmener leurs proches chez un médecin, ils l'emmènent chez un guérisseur, un exorciste. Ils disent la même chose. Hein. Ils disent il est habité par le diable. Mmh. Donc, ils l'emmènent chez un exorciste. Il y a des exorcistes qui frappent le malade pour faire sortir le diable en lui. Ils le frappent, Mskine. Et en plus, ils le frappent. C'est de la folie, ça. Donc, ils le frappent. Il y a des exorcistes, d'ailleurs, qui ont été mis en prison parce qu'on n'a pas le droit de frapper quelqu'un, quoi. Donc, ils le frappent pour lui sortir, soi-disant, le diable. Et nous, on sort le djinn. Vous voyez, c'est dans toutes les cultures. Vas-y, Malika.
Il y en a même qui vont jusqu'à les étrangler. Alors, ils disent, parce que je les ai vus au Blaise, alors ils les prennent par le cou. Et je sais pas ce qu'il récite. Et c'est on a l'impression qu'il va le tuer. Alors il dit sors, je sais pas comment ils disent. Il y a rien, c'est du n'importe quoi.
Tu as raison,
c'est du n'importe quoi. Les gens ils payent. Hein.
Qui paye, on s'en fiche, mais ils aident le hadak le mérite. C'est-à-dire le malade, mais tu sais, les gens ils savent pas qui le sont parce qu'ils pensent que vraiment être investi d'un pouvoir. Mais moi, je parle des gens qui ont des malades. N'emmenez pas vos malades chez des gens. Un malade, c'est un malade. Parce que quelqu'un de sérieux, il vous dit, la maladie, non. Je peux vous aider. Parce que il y a des personnes qui vont voir des... On peut aller voir quelqu'un qui te soulage psychologiquement, etc. Mais quand tu as toutes les facultés mentales. Mais emmener un malade chez un pseudo guérisseur, alors que c'est un malade qui souffre de maladies psychiatriques, non. Là, non. Non, il faut dissocier vraiment les deux. La maladie psychiatrique, c'est une maladie psychiatrique. Et surtout, la schizophrénie, c'est quelque chose de très délicat. Ouais. Non, mais c'est partout, hein, je te dis. Avant, en France, partout, et même, je suis sûre que ça existe encore, ils emmènent des malades qui ont des maladies psychiatriques chez un prêtre exorciseur. Et qui lui fait, je sais pas, des incantations, qui frappe, il dit je vais sortir le diable. Tu te rends compte?
Oui.
C'est pas normal, ça. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait, mon Dieu. Ah oui.
Qu'est-ce que je voulais dire encore?
Oui. Alors attends, ne pars pas, Malika. Je vais prendre Abdelmadjid parce que peut-être qu'on a des témoignages, on va voir. Parce que j'aimerais bien avoir des témoignages pour Leïla Mskina, elle est en attente, pour son frère. Abdelmadjid de Paris, bonjour.
Bonjour, madame Vanessa.
Bonjour, Abdelmadjid.
Je suis content, je t'écoute ton voix.
Ah bah écoute, merci.
Voilà,
merci.
Merci, madame, merci.
Je t'en prie.
Je parle sur le sujet de l'Alzheimer, là.
Oui, oui.
Moi, j'ai perdu ma soeur, elle a l'Alzheimer, et ma mère... J'ai perdu, ça fait un moment, presque 8 mois.
D'accord.
Et quand je rentre à ma soeur,
ouais.
Là, dans le 19e arrondissement, la rue Surili,
ouais.
Il y a une clinique, il s'appelle le docteur... Je sais pas
non, on ne donne pas les noms des médecins et tout, c'est pas grave. Donc,
c'est pas un docteur. La clinique, il s'appelle docteur, je ne sais pas quoi.
D'accord, c'est pas grave.
Dans le 19e.
Oui,
quand
oui.
Je rentre chez ma soeur,
oui.
Devant les soignants, les fermiers, ils disent, mon frère. Je dis, madame.
Qui c'est qui dit mon frère? Je n'ai pas compris.
Non, quand je rentre chez ma soeur.
Elle est contente, ta soeur, elle est contente de te voir. Elle dit, mon frère, est venu me voir. Oui,
mais elle a l'Alzheimer.
Oui, mais des fois, ils ont des... Ils ont des moments de lucidité, des petites lumières. Tu sais, dans la tête, oui. On a l'impression qu'on a des petites ampoules. De temps en temps, oui. Il y en a une, elle s'allume. Très rare, oui. Ça ne dure pas. Voilà. Et des fois, ils ont des souvenirs, très récents. Et les souvenirs lointains disparaissent, enfin.
Oui, mais il est très, très, il est fatigué avec les médicaments. Il reste comme handicapé comme ça, il parle pas, la langue elle est tournée à droite, à gauche, j'arrive pas à comprendre.
Non, ça c'est la maladie, elle est Alzheimer, ta soeur?
Oui, ma soeur, oui. Oui,
oui c'est la maladie, c'est la maladie. Les traitements, c'est juste pour justement calmer la personne. Tu sais qu'il y a des personnes qui souffrent d'Alzheimer, qui sont agitées. T'en as même qui sortent coûte que coûte, qui sont prêts à se jeter par la fenêtre. Ouais. Quand ils sortent, ils se perdent. Eh bien, pour éviter le pire, ben, ils leur donnent des traitements. Il n'y a rien qui est parfait, mais c'est juste pour tempérer.
Pour calmer le cerveau, le corps.
Pour calmer. Voilà. C'est normal, pour calmer.
Pour calmer.
Parce qu'il n'y a pas de traitement. Ouais.
Pour visiter ma soeur, j'ai ramené manger comme ça, la yaourt comme ça. Ils disent devant tout le monde, mon frère, je dis, c'est quoi ça? Elle n'est pas malade, ma soeur.
Mais si qu'elle est malade.
Ma soeur, c'est moi.
Abdelmadjid, elle est malade. Il ne faut pas vous... Il ne faut pas vous arrêter à ces moments de lucidité qui sont très courts. Écoute, Samahli, c'est ce que Maryam disait tout à l'heure. Son fils, peut-être qu'il y avait des moments de lucidité, ils ont dit, c'est pas la peine qu'il prenne son traitement. Eh bien, ça a empiré sa maladie. Aujourd'hui, pourtant 22 ans, et aujourd'hui, sa maladie, elle a empiré parce qu'il a arrêté le traitement. Il faut pas dire elle est pas malade ma sœur puisqu'elle me reconnaît. Non, elle peut te reconnaître une fois et une autre fois elle te reconnaît pas. Ça c'est les effets de la maladie. Il faut pas dire parce qu'une fois elle te reconnaît en disant elle est pas malade. À partir du moment où elle reconnaît pas les autres et elle a pas de souvenirs et elle a plein de trous, eh bien c'est qu'elle est malade d'Alzheimer. Il faut pas dire non elle est pas malade. Elle est malade.
Ouais.
C'est pas malade mon frère une fois.
Le cerveau dans le cerveau dans واش نقولوا احنا المخ هذاك البروس يبقى يهبط يدسون جوسكا يلغس ان بيبو
Reste le cerveau, c'est un ça reste un mystère même pour les
il attaque le cerveau, la maladie là,
oui,
c'est pur de le cancer.
C'est des maladies mentales, mais c'est psychiatrique, c'est horrible, c'est pire que tout.
Ma mère, ma mère comme ça. Quand je rentre en Algérie,
ouais,
il m'embrasse.
Ouais.
Dans une quart d'heure, une heure de temps, il m'a dit c'est qui avec moi? J'ai dit maman, c'est moi, Majid, Abdelmajid,
oui,
ton fils. C'est qui mon fils?
Bon, c'est terrible. Donne, c'est dur, hein, mais Abdelmajid, c'est dur. Bah, hein,
ouais,
c'est dur. Hein.
Voilà. Et donc j'ai perdu ma soeur, ma mère.
Oh mon Dieu.
Et là, je demande Madame Vanessa, est-ce que vous avez un médecin de l'examen là? Est-ce que c'est héréditaire ou non?
Alors, moi, alors jour, tout ce qui concerne les maladies, moi, je vais pas m'avancer à dire n'importe quoi. Oui.
Non, je suis désolé, Madame.
Non, tu as raison de poser la question. Je vais inviter un psychiatre qui va nous parler et de l'hérédité et de toutes ces maladies. Il va nous donner toutes les indications pour qu'on puisse avoir un petit peu une idée là-dessus.
Je
vais l'appeler cette semaine.
Voilà, je demande ça. Est-ce que, comme par exemple la diabète, qui est héréditaire de la famille?
Ben, tu dis que ta mère, ta sœur, ça fait beaucoup déjà.
Oui.
Ta mère et ta sœur, quand même. Hein.
Voilà.
Donc il y en a deux. Je ne sais pas si c'est héréditaire. Faudrait que je me renseigne là-dessus.
Mon frère, il est décédé en 2016. Mais l'autre, ma sœur, elle est décédée à Clamart, à 92, crise cardiaque. Mais j'ai perdu ma sœur, là, il y a même pas 2019. Ma mère, 2022, ils ont malade de l'Alzheimer. Je demande à Madame Vanessa si un médecin
je vais inviter un psychiatre.
Est-ce que c'est héréditaire, oui ou non?
Vous allez lui poser la question. Je vous le dirai bien avant le jour de son passage.
Merci à Madame Vanessa. Et je suis content,
merci.
On voit.
C'est très gentil.
Un jour, on était ensemble à la place République.
Ah, d'accord. Ah bah tu vois, comme quoi, hein. Voilà. Je vous rencontre de temps en temps dans des manifestations, des choses comme ça.
Une femme formidable.
Ah bah écoute, c'est gentil. Merci Abdelmajid. Bonne journée, bonne soirée, pardon. Je t'embrasse. Et là, tout de suite, on va marquer une petite pause. Ne partez pas, on a Brahim de Toulouse. Peut-être qu'il a aussi un témoignage. Leïla, c'est bien, tu restes là. Ne bouge pas. Malika aussi. Et les autres, vous pouvez venir apporter vos témoignages concernant ces maladies psychiatriques qui sont des... C'est vrai, pour les familles, hein, c'est quelque chose de très, très, très lourd. 01 53 48 3000. On marque une courte pause. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou, avec Vanessa sur Beurre FM.
Cheb Mami, sa jolie voix, Bladi. 01 53 48 3000. Alors, on va prendre Fouzia, un nouvel appel. Fouzia de Paris, bonsoir.
Bonsoir Vanessa, comment allez-vous?
Très bien, et toi, on peut se tutoyer, Fouzia?
Ouais, allez, on va faire comme ça.
On va pas faire du chichi. Hein.
Ok, ça marche. Donc, je vous appelle parce que je suis passée par là, vous parlez de la maladie d'Alzheimer.
Ah, toi-même ou un membre de ta...
Ma maman.
Ta maman.
La Rahma,
ça a l'air, oh mon Dieu.
Donc, c'est pas évident du tout. Hein.
Non.
Comme, en plus, moi, je vivais avec elle, je partais au boulot, et puis je revenais, je la trouvais dehors. Heureusement que c'était une résidence sécurisée. Donc, elle ne se rappelait pas de l'appartement où il était.
Oh mon Dieu. Ah ouais.
Donc, elle reconnaissait moi et ma sœur, mais mon frère.
Ouais. Ouais, il y a des trous. Hein. Et vous n'aviez pas peur dans la journée, je ne sais pas, enfin, le gaz, des choses comme ça?
Non, tout était électrique. Et on avait, tu sais, comment on appelle ça, une femme. Une assistante de vie qui passait pour lui donner à manger à midi, donc elle s'occupait d'elle.
C'est dur, hein, c'est compliqué, mais c'est bien de l'avoir. Enfin, vous l'avez gardé à la maison. Vous avez pris cette responsabilité. C'est dur, hein. C'est pour les familles, hein. Mais c'est vrai qu'on On n'imagine pas nos parents dans des...
Excuse-moi, je t'interromps. On est d'origine maghrébine, donc la maman la met dans un hospice, c'est pas de coutume chez nous.
Ouais, je sais que c'est quelque chose de inimaginable. Ouais, c'est dur. Mais tu as des personnes, ils n'ont pas le choix. Oui, ils travaillent loin.
Non, mais je suis pas en train de juger.
Ouais. Il y en a qui travaillent loin, il y en a qui sont pas, qui ont des enfants, qui ont puis ça dépend quelle forme. Hein, parce que tu as des formes d'Alzheimer. Très, 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 très dur. Hein. Il y en a qui... Waouh, c'est violent. Hein.
Ah non, elle n'était pas agressive du tout.
Ouais. Ce qui n'a le père, donc, elle ne reconnaissait pas. Ben oui.
Elle ne reconnaissait pas, mais bon, quand je travaillais pas...
Elle est décédée avec quel âge?
Elle est décédée, elle avait 82 ans. Mais en fait, elle
est décédée... Vieux, hein. C'est pas
non,
vieux.
Non, elle s'est laissée mourir.
Ah oui.
Parce que pendant ces moments de lucidité, bon, bah, elle se rendait compte que voilà, de 80
ouais.
kilos, elle est descendue à 40...
Ouais. Et quand elle était dans ces moments de lucidité et de présence, on va dire, ça se manifestait comment? Qu'est-ce qu'elle disait? Est-ce qu'elle était triste pour
non, pas du tout.
De
alors,
son état, non.
Chose qui est bizarre, c'est qu'elle se souvenait des choses, des histoires qui s'étaient passées il y a 30 ans.
Voilà,
plus.
C'est ça.
Mais ce qu'elle avait mangé à midi ou hier, ben, elle ne s'en rappelait pas.
C'est ça. C'est ça, Alzheimer.
Ouais.
C'est la mémoire lointaine qui revient. Mais tout ce qui est présent ou récent disparaît.
Oui.
C'est un grand mystère, vraiment.
Et
pour les proches, c'est terrible. Terrible de vivre ça.
Ça a été surtout délicat pour moi, vu que je t'ai dit, j'ai toujours vécu avec elle.
C'est ça. Et comment elle est décédée, Fouzia? Comment c'est arrivé
C'est un arrêt cardiaque pendant son sommeil.
Ah
voilà.
Oui.
Donc elle a
c'est une belle mort. C'est une belle mort.
Elle est décédée, oui, comme ma grand-mère, sa maman.
Non, c'est une chance. Alors, vraiment, c'est une belle mort. Ouais. Hein. Partir de cette manière. Moi, je trouve ça beau, hein, dans son sommeil.
Elle s'est endormie, puis le lendemain matin.
Mon Dieu.
Voilà.
Comme une rose. C'est beau, hein.
Oui, absolument, oui. C'est magnifique.
On se souhaite tous de partir comme ça.
Oui, mais on n'aura pas tous la même chance.
Oui, non, c'est vrai, malheureusement, mais c'est malheureusement,
c'est
on est tous partants, morts, ouais. Mais c'est la plus belle des morts, vraiment.
Vrai,
ça, tu vois, au moins, ça peut vous laisser, disons, ça peut, bien sûr que perdre sa maman, je veux dire, on s'en remet pas, hein, vrai. Mais, quelque part, ça vous apaise de l'avoir vu partir dans son sommeil. C'est ce qu'on dit, partir de sa belle mort, dormir et pas se réveiller. Inch'Allah, gagne moto, Agda. On dort et on se réveille pas. Inch'Allah, vraiment, hein.
Non, mais tu sais, ce que je te disais surtout, c'est que bon, elle se souvenait de moi, ma sœur aussi.
Oui.
Donc voilà, il n'y avait pas de.
Et comment, est-ce qu'il y avait des soins ou comment ça se passait?
Ah oui, il y avait un traitement. Hein.
Il y avait un traitement. C'est quoi? Sans donner le nom des médicaments, bien sûr, on donne pas. Mais c'était pourquoi faire? C'était pour.
Pour l'apaiser, la calmer. Pour...
Voilà.
Mais elle ne dormait pas la nuit. Hein. Elle ne dormait pas. Toute la nuit, elle parlait.
Ah oui ? Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ça, c'est dur. Ah oui, ça, c'est dur. Ça, c'est difficile. Ouais. Ah, c'est comme les petits bébés, finalement.
Oui.
Il y a une confusion entre la nuit et le jour.
C'est vrai.
Ouais.
On est arrivé, on est obligé de passer par là, de lui mettre des couches.
C'est compliqué, ça.
C'est comme ça, ouais.
Ça, c'est dur. C'est dur, hein, parce que quand tu as connu ta maman dans toute sa dignité, sa splendeur, une femme courageuse, j'imagine, hein, et voilà, et puis du jour au lendemain, être un petit peu comme ça à la merci de mains étrangères, puisque vous la laissiez avec cette dame, et puis vous aussi, et de voir, comme tu parles de couches, tout ça et tout, enfin, c'est...
Mais, tu sais, je vais te prendre juste 2 minutes,
c'est
alors
dur,
j'ai perdu
vie.
Mon papa à 47 ans.
Il avait 47 ans, ton père?
Ouais. On revenait de vacances. On a fait un accident de Palestro, si tu connais.
Oui, Palestro. Les gorges de Palestro. Voilà. C'est très compliqué, cette route. Hein.
Et depuis, ma mère ne s'est pas remariée. N'a fréquenté aucun homme. Elle s'est mise à bosser pour s'occuper des enfants. On était 4 à l'époque.
Ah oui. Aïe, aïe,
aïe. Voilà, elle s'est sacrifiée.
Ouais.
C'est ce qui a été le plus dur, le fait de la voir devenir comme ça.
Ouais. Parce qu'elle a fait office de père et de mère.
De tout, ouais.
Femme courageuse, femme de tête, femme intelligente, forte. Tu vois,
et pourtant il est très. Il
pleure pas. C'est les meilleurs. Moi je dis, ouais. Les femmes qui quand on dit lettré, analphabète, tout ce qu'on veut, je trouve que ces femmes sont les plus courageuses parce que elles ont un sens qu'elles développent que d'autres n'ont pas. Vous voyez, tu vois par exemple, moi j'ai connu une femme qui, pareil, comme ta maman, il était beaucoup hein, de nos mères. Hein, on va pas se leurrer, elles ont pas été à l'école. Hein. Eh bien, cette femme, elle m'a laissé cette phrase dans la tête, ce souvenir, cette image. Elle m'a raconté sa vie. Elle me dit, tu sais, ma fille. Elle dit, les années 60, quand elle est arrivée en France, elle savait pas lire. Il fallait se débrouiller. C'était pareil. Il y a une femme qui est tombée veuve, pareil, très tôt, qui a connu la guerre, qui a tout connu. Elle me dit, il fallait aller travailler. Il fallait nourrir sa petite famille. Comment faire? Elle dit, je ne savais pas lire. Elle dit, et donc, pour ne pas me perdre dans la rue, ben, tu vois, j'en ai la chair de poule. Elle me disait, je faisais comme le petit poussé.
Qui
déposait des cailloux. Mais elle, c'est pas des cailloux qu'elle déposait. Elle dit, mais à chaque fois que je passais quelque part, je retenais, une porte cochère qui est différente d'une autre, une boutique, différente, et un coin de rue avec, un toit, tu vois, d'une toiture. Elle m'a dit, mais tout, chaque signe, je retenais, elles sont dans l'observation, nous, qu'on n'a pas, hein, parce qu'on compte tellement sur, le fait qu'on sache.
Oui, on a d'autres facultés.
Voilà, mais elles sont d'une intelligence. Elle me dit, c'est le petit, tu vois, j'étais le petit pousset. Elle m'a fait pleurer. Elle m'a fait pleurer. Elle m'a dit que j'étais le petit pousset pour retrouver mon chemin du retour, Mskina. Tu vois comme elles étaient.
Ouais.
C'est des femmes de tête. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les mamans, les grands-mamans qui sont arrivées en France dans un pays étranger. Elles ne parlaient pas la langue et elles ne maîtrisaient pas la langue, le français. Elles ne savaient pas lire, mais elles étaient plus débrouillardes que les femmes françaises autochtones. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient dans une observation que aucune ne pouvait avoir. Elles observaient tout. Elles étaient à l'affût de tout. Et puis elles avaient la dignité. Elles voulaient garder cette fierté qu'on dise pas, oui, t'as vu l'arabe, etc. Donc elles gardaient cette dignité et elles donnaient une bonne éducation à leurs enfants, leur disant attention, il faut pas donner le bâton, faut pas tendre de bâton. Il faut pas donner une mauvaise image de nous. Ils vont dire, t'as vu les arabes et tout. Non. Il faut être poli, il faut être respectueux, elles donnaient une bonne éducation à leurs enfants et elles étaient dignes, elles étaient vraiment ces femmes-là. Moi, j'ai beaucoup d'admiration. Il y a un proverbe en Algérie, on dit, je pense que dans tout le Maghreb, on doit le dire la même chose différemment et on doit le dire dans plusieurs langues, en kabyle, tout ça, mais en algérien, on dit les fahem, l'ahla qara. Ça veut dire celui qui est intelligent n'a pas besoin de connaître. Il n'a pas besoin d'avoir été à l'école, de savoir lire. Ça veut dire beaucoup de choses. L'intelligence ne se développe pas dans les livres, forcément. Comme cette femme qui me dit avoir été le petit poussé. Hein.
Ouais.
C'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai.
On devrait parler davantage de nos parents, de nos mamans, de nos papas, et puis surtout de nos mères. Parce que nos mères, elles étaient. C'était une époque. Donc elles étaient aussi pas soumises, c'est pas ce que je veux dire, mais si tu veux, elles avaient cette éducation. L'homme, c'était lui qui un peu commandait et tout. Donc elles avaient la belle famille, elles avaient tout autour d'elles et elles avaient des enfants à éduquer, à nourrir. Donc c'était des femmes qui sortaient d'une époque de guerre, une époque charnière, une époque difficile. Et malgré ça, ces femmes, elles s'en sont sorties. Et aujourd'hui, c'est-à-dire elles sont instruites. Il y a tous les moyens d'instruction. On a les ordinateurs. Il y a tout. Même celui qui n'a pas
d'yeux.
Même celui qui n'a pas d'yeux, quand tu traverses, il y a avec le bip-bip pour traverser. Aujourd'hui, tu as tout. Et les femmes d'aujourd'hui, je ne dis pas qu'elles ne sont pas bien, mais elles ont toutes les facilités. L'ordinateur, il est dans leur poche. Tout. C'est-à-dire qu'elles ont un GPS. Voilà, tu marches dans la rue, tu connais pas une rue, tu prends ton téléphone et il te dit avance droite, droite, à gauche, maintenant tout droit, nichène. Il y a tout, c'est vrai ou pas? Et elles se plaignent aujourd'hui. Et elles se plaignent. Moi, je leur dis, les filles aujourd'hui, quand elles se plaignent, des fois, il y en a qui se plaignent à moi, en me disant ouais, tu sais, quand même et tout, c'est injuste. Et Ya Sarah, qu'est-ce que t'as vu toi, Ya Mbebek, j'ai dit. Qu'est-ce que t'as vu toi, t'as toutes les facilités. Demande à ta mère et ta grand-mère, et surtout ta grand-mère. Demande-lui, tu vas voir. Demande-lui, tu verras après.
Ah, moi, la grand-mère, c'était la... comment dire, c'était la femme tatouée des pieds à la tête. Hein.
Ben, c'était des femmes tassah, les djoumdjbel, les
djoum... Tu sais, elle m'expliquait que chaque tatouage avait une histoire.
C'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est pas les tatouages d'aujourd'hui.
Ah non, non, non.
C'est
non,
qu'un
non.
papillon, ou là, une tête de mange, je sais pas que tout serait. Ah non. C'était non. Des... Ça, c'est des femmes des... Des terres profondes et des montagnes. C'est-à-dire, ça se transmettait de mère en fille, de génération en génération. Et comme tu dis, chaque tatouage, il avait tout d'une signification. Tout.
Oui, c'était, comment dire, un parcours de sa vie, un parcours, voilà.
Oui. Et ça, c'est vrai. Oui, absolument. Ouais. Et puis en même temps, c'était comme il n'y avait pas de livre pour écrire leur vie. Pour témoigner. Donc, elles n'avaient pas elles n'avaient pas accès à ça. Donc,
non,
elles se transmettaient.
La majorité n'ont pas été à l'école.
Oui, et puis, comme il n'y avait pas ça à l'époque, donc elles n'avaient pas accès, justement, là où, inscrire leurs souvenirs, eh bien, leurs souvenirs, elles inscrivaient leurs souvenirs sur leur peau. Elles le tatouaient sur leur peau. Et elles le transmettaient de mère en fille pour pas que les générations oublient. Et si les gens savaient lire, elle lirait dans les tatouages des femmes, de ces endroits, parce qu'il y a des endroits, c'est pas partout, mais des endroits dans les pays du Maghreb où les femmes se tatouent. Parce qu'il y en a qui ne savent pas, ils te disent, elle se tatouait, mais elle se tatouait. Cherche à comprendre derrière le tatouage, le message, le symbole, l'histoire. L'histoire, elle est écrite sur le corps des femmes tatouées de nos contrées à nous. Subhanallah. Ben oui.
Absolument.
Sainte Ajbel. Les femmes des montagnes, c'est des femmes qui ont énormément souffert. C'est des femmes qui étaient discrètes, qui ne parlaient pas, qui ne se plaignaient jamais. Regarde par exemple Bled Qbeil en Algérie, en Kabylie. Ces femmes qui portent les fagots, ces femmes qui vont chercher de l'eau en hiver, dans la neige, etc. Ces femmes qui ne se plaignent jamais et qui chantent tout le long. Tu sais, quand elles vont faire les cueillettes et tout, des olives
toujours
et tout.
Toujours souriantes.
Et toujours souriantes, oui. Ouais. Et elles chantent leur vie, si on les écoute. Elles chantent leur vie. Ces femmes-là, eh bien, c'est des livres d'histoire. Elles sont d'un courage. Il y en a qui disent, ouais, les femmes soumises. C'est pas une caisse. Toutes les femmes étaient soumises.
Non, du tout.
Il y en a qui disent, ouais, les femmes... Toutes les femmes étaient soumises. En Europe, elles n'étaient pas soumises. Elles n'avaient même pas le droit de voter. Non. Mais c'est des femmes qui portaient le courage en elles. Ouais. Et l'histoire, elle était en elles, impactée en elles. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes des montagnes. Moi, j'adore ces femmes parce qu'elles ont des histoires à raconter à ne pas en finir, vraiment. Et...
C'est vrai.
Oui. Ça... Malheureusement, tu vois, dans ces temps modernes, Fouzia, eh bien, cette génération, elle va tout perdre, tous les repères. Qu'est-ce qu'elle va transmettre ?
Les valeurs, tout.
Qu'est-ce qu'elle va transmettre, Mbabek ? C'est bien de transmettre les écritures. Moi, je lis. Hein. Je lis Victor Hugo, je lis Nietzsche, je lis tout. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça.
J'allais le dire, oui.
Je veux dire, c'est pas... On a des lacunes si on ne lit que la littérature qu'on nous met à disposition. C'est beau, c'est bien. Moi, j'adore. Mais il faut aussi aller puiser dans les récits de ces femmes... qui ont justement leur l'histoire transmise oralement de mère en fille. Et non. Ah non, qu'elle est avec le livre. Non, mais j'ai appris, moi j'ai lu dans les livres. C'est bien. Mais la vie de vos grands.
Ça ne t'apprend pas les valeurs de la vie, voilà.
Exactement, Fouzia. Fouzia, je veux pas te perdre, Fouzia, je te garde. Je te reprends juste après, on a Brahim aussi, Jamila. Mais ne pars pas, Fouzia, on a une petite pause, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Sans tabou, 01 53 48 3000. Et là, on a Jamila de la Seine-et-Marne. Fouzia, je te garde, hein, ne pars pas. Jamila, bonsoir Jamila.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, bienvenue.
C'est la première fois que j'interviens sur les ondes.
Yes.
Moi, j'interviens parce que c'était simplement pour apporter un petit rectificatif par rapport à la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est pas une maladie qui relève de la psychiatrie, c'est une pathologie neurodégénérative, donc qui n'a rien à voir avec la psychiatrie. Donc,
laquelle, la schizophrénie ?
Non. la ASMR.
Ah, pardon. Oui, d'accord.
Ça ne relève pas de la psychiatrie, c'est une maladie, une pathologie neurodégénérative.
D'accord.
Qui n'a rien à voir avec la psychiatrie. Donc, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est plutôt d'inviter un médecin gériatre. Oui. Voilà, après, c'est une pathologie qui impacte beaucoup, qui impacte avec différents paliers, oui. Les fonctions cognitives. Hein, c'est toutes les acquisitions, les apprentissages,
oui.
Tout ce qui relève à l'expérience. Et puis, il y a les fonctions mnésiques, ce qu'on appelle les fonctions de la mémoire.
D'accord.
Ce qui impacte le plus les familles, c'est pas la perte d'autonomie fonctionnelle, c'est-à-dire ne plus faire sa toilette, ne plus s'habiller, ne plus savoir se lever, ne plus se coucher, ne plus savoir se déplacer. Ce qui impacte beaucoup les familles, c'est la perte d'identité.
C'est vrai.
Ne pas savoir qui on est et ne plus savoir reconnaître ses proches. Voilà, c'est ce qui est le plus difficile à accepter par les familles.
Oui.
Voilà, moi par expérience, j'ai rencontré des personnes atteintes de différents milieux, différentes classes sociales. Hein. Moi j'ai des souvenirs d'avoir rencontré des journalistes, des chercheurs, des ingénieurs qui avaient complètement perdu tout ce qu'ils avaient appris, et ça c'est terrible pour les familles parce qu'ils se reconnaissent pas du tout dans.
Alors tu dis que tu as rencontré Jamila et tu as l'air de connaître bien le sujet. Tu fais quoi sans indiscrétion dans la vie? Est-ce que tu
je vais pas le dire, mais je travaille dans le milieu médico-social. On va dire comme
ça. Oui, mais ça, ce serait intéressant parce que si un jour j'ai envie de t'inviter et que tu nous parles justement de cette maladie.
Mon employeur, alors.
Comment?
Il faudrait que je demande autorisation à mon employeur.
Mais avec grand plaisir, ce serait bien. Pourquoi pas? Attends.
Ouais.
Tu as l'air de maîtriser le sujet. C'est intéressant.
C'est très dur, hein, la désorientation temporelle, spatiale, ne plus savoir le jour, la nuit, les saisons. Ouais.
Ah oui, c'est ce que disait l'auditrice.
Même évoluer dans une maison, ne plus savoir où est la salle de bain, les toilettes. C'est terrible. Et puis ce qui est compliqué, c'est les proches aidants, parce que on doit penser aux proches aidants. Qui doivent supporter en termes de prise en charge, ça peut être très très lourd. Ça finit des fois chez certaines personnes par générer du burn-out. Hein. Moi, j'ai vu beaucoup de proches aidants en burn-out.
Ah oui.
Parce que il y a des familles. Ce qui est étrange, c'est que moi, j'ai rencontré des personnes âgées dans des grandes familles, c'est-à-dire avec des fratries de 7 personnes, et l'aide reposait uniquement sur une personne, alors qu'on pourrait se dire que ça devrait tourner entre la famille, et ben malheureusement non.
C'est souvent le cas, hein. C'est souvent le cas.
Et oui, et ça se perd.
Ouais. Il n'y a plus cette entraide où tout le monde, où ça tourne. C'est souvent sur une personne.
De toute façon, pour que ça puisse tenir dans le temps, parce qu'il y a différents paliers. Alors, il y a des pathologies Alzheimer qui vont évoluer de façon très, 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 très lente. Et puis, il y en a d'autres, en 6 mois, 1 an, ça va se dégrader de façon très, très massif, avec une perte d'autonomie fonctionnelle importante. Hein. C'est la personne qui est même plus dans la communication, qui ne vous reconnaît pas, qui ne fait plus rien au niveau des actes essentiels, comme la toilette, l'habillage.
Et comment ça se fait qu'il y a deux formes comme ça?
On ne sait pas trop, parce qu'il y a des personnes qui ont d'Alzheimer qui va se développer très très lentement. Puis il y en a d'autres.
Est-ce que c'est une question d'âge? Non. Parce qu'on dit chez les plus jeunes, ça c'est plus rapide. Non, c'est pas vrai?
Non.
D'accord.
Franchement.
Et comment ça commence? Les premiers signes, par exemple?
Alors, après, moi, je ne suis pas médecin gériatre.
Mais ce que j'ai
repéré, c'est les troubles de la marche.
Ah, d'accord.
Quand quelqu'un commence à trébucher sur les bords du trottoir, il y a un signe, traîner les pieds, les chutes.
Ah
quand
oui.
Quand on commence à faire des chutes, ça peut être un signe, on va dire, avant-coureur de la maladie d'Alzheimer. Après, il y a la mémoire. Quand on commence à chercher les dates, on commence à chercher dans sa mémoire, perdre ses clés. Voilà, ça peut être des signes. Hein. C'est pas forcément la maladie d'Alzheimer. Hein,
parce ah oui, tu me fais peur parce que je perds souvent mes clés, je cherche toujours des choses chez moi.
Oui, non, c'est pas forcément associé à la maladie d'Alzheimer. Il y a d'autres pathologies, ça peut être des démences qui sont des démences,
ah ouais,
qui
démence,
sont pas forcément
quand même
de la maladie d'Alzheimer. Hein.
Sinon, Jamila, alors, je voulais te poser une question, du coup. L'âge. Parce que souvent, il m'arrive de parler avec des gens qui ont une maman qui a Alzheimer. Il y a des âges différents. Et parfois, on est surpris parce que la personne, elle est jeune.
Ouais, bah oui, des fois 60 ans, 50 ans.
Ouais, c'est ça qui est étonnant. Parce que on s'attend toujours, ça tombe sur des personnes assez avancées dans l'âge.
Et moi, j'ai repéré aussi que la pathologie Alzheimer, ça touche beaucoup les personnes qui souffrent d'isolement et de solitude. Les personnes qui sont bien entourées, un peu moins. Mais les personnes qui sont seules, par exemple, qui sont isolées, qui sont coupées de leur famille, elles sont beaucoup plus touchées par la maladie.
D'accord.
Parce qu'il n'y a pas d'interaction sociale, il n'y a plus de communication sociale. Donc forcément, ça a un impact. Hein.
D'accord, oui. Qui sortent pas aussi. Il y en a qui ne sortent pas.
Personnes qui n'ont plus d'interaction sociale, qui sont plus dans les habiletés sociales, qui n'ont plus de communication avec l'extérieur, qui ne reçoivent personne à la maison,
et puis aussi la tristesse peut-être, puisque d'être seul, isolé, pas avoir les siens, si on est entouré, puisque dans les EHPAD, parce que souvent on parle des EHPAD, souvent il y a des personnes qui souffrent d'Alzheimer dans ces endroits. Alors que quand elles y entrent, elles n'ont pas Alzheimer, elles sont pas touchées par la maladie, mais qui arrivent très vite. Enfin, je l'ai lu, ça, quelque part.
Moi, ce que j'ai vu, la plupart du temps, lorsque la famille décide d'organiser un accueil, moi, j'aime pas trop le terme placement.
C'est vrai. Je sais pas. Il y a d'autres termes. C'est dur, mais c'est une réalité aussi, non?
Oui.
C'est des gens qui sont plus chez eux, ils sont dans une structure.
Moi, je préfère dire organiser un accueil en établissement. Donc, EHPAD, la plupart du temps, c'est parce que la famille est complètement démunie, désemparée, puis n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Souvent, dans un couple, il y a la conjointe ou le conjoint qui n'arrive pas à faire face à la maladie parce que ça, c'est chronophage. Hein. C'est H24, faut s'en occuper. Hein.
C'est dur.
La toilette, l'habillage. Après, il y a des aides à domicile, mais quelquefois, les personnes se mettent en danger, elles ne peuvent plus se maintenir à domicile.
Mais tu as entendu Fouzia, là, sa maman qui était... Enfin, elle n'est plus de ce monde, paix à son âme. Mais ils n'ont jamais voulu la mettre, je sais pas le terme que tu employais, hein. Voilà.
En tout cas, la mettre dans un établissement.
Dans un établissement, et ils ont été jusqu'au bout, hein, puisqu'ils ont fait appel à une aide.
Alors en France, les personnes qui sont atteintes, les personnes étrangères qui sont atteintes d'Alzheimer, on les voit. Alors ça commence. Mais on ne les voit pas beaucoup dans les établissements. Par exemple, la population asiatique, ils sont très, 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 très soudés avec leurs anciens.
Oui, c'est vrai.
Ils vont prendre en charge leur père, leurs parents. La population africaine, maghrébine, alors ça commence. Hein.
Ça commence quand même.
Ouais.
C'est-à-dire que plus on avance en temps, plus... Ça se dilue un petit peu, hein, tout ça.
Quand il y a une défaillance des enfants et de la famille, quelquefois, effectivement, il y a des accueils qui s'organisent.
Ouais, c'est ça.
Et on s'aperçoit que, moi j'ai vu ça, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que quelquefois, dans une grande fratrie de 7 enfants, il y en a que ça repose que sur un enfant. Mais ça, c'est pas possible, ça ne tient pas dans le temps. Hein.
On a des auditrices qui appellent... parfois, et qui témoignent de parents, enfin de mamans surtout, qui souffrent d'Alzheimer. Parce que quand il y a le papa, il y a la mère, elle est là, elle est présente. Bon, quand le père n'est plus là, la maman, quand elle souffre d'Alzheimer, eh bien, les enfants disparaissent. Il n'en reste qu'un, c'est souvent une fille. Et tout repose sur elle. Moi, j'ai connu une femme, ils sont très nombreux, 6, 7 enfants, comme tu dis. Et toute sa vie, bah, sa mère a vécu chez elle. Elle me dit, je peux pas faire autrement. Ouais. Ma mère, voilà. Enfin, alors ouais, qu'elle travaille elle-même. Hein. Elle travaille.
Un membre de la famille voilà. qu'on sacrifie. Hein.
Ah oui, mais elle travaille. Hein. Elle travaille. Ouais. Ouais, ouais. Ses enfants travaillent. Son mari travaille. Et les autres sœurs ne veulent pas entendre parler. C'est comme ça. Non, c'était un choix. Voilà, c'est chez toi. C'est plus pratique comme ça. Alors, quand elle leur demandait pour les vacances. Au moins, bon, elle pouvait pas partir en vacances tant que sa mère était de ce monde. Hein. C'était incroyable son histoire.
Ouais, mais enfin, c'est pas normal c'est non plus. Ça, parce
ah non, c'est pas normal. Donné,
le proche aidant, il y a un statut hein, qui est créé maintenant hein, du statut de proche aidant. Et dans ce statut-là, il est pensé un répit parce que si on lui accorde pas du répit, il va pas tenir dans le temps. Psychologiquement, c'est quand même relativement.
Bien sûr. Mais tu sais comment que ça se passe dans la communauté. Ouais, ouais. Les gens vont pas se plaindre en disant, écoutez, mes frères et sœurs ne veulent pas. Comment, enfin, c'est comme si c'était une honte d'aller se plaindre. Donc elles prennent leur mal en patience et les autres profitent de la situation.
Je voulais aussi ajouter quelque chose avant de terminer.
Vas-y.
Si vous avez un début de trouble cognitif. Et que vos parents conduisent, il faut les empêcher de conduire parce que c'est quand même un risque accidentogène assez important. Hein. Et malheureusement, il y a des enfants qui ferment les yeux, qui n'empêchent pas, enfin, ou qui font rien pour arrêter la conduite. Et ça, c'est pas possible. Il faut intervenir. Quoi. Quand quelqu'un qui présente des troubles de la cognitifs importants, il faut l'empêcher de conduire.
Donc les troubles.
Un grave accident.
Oui, tu as raison.
En danger, mais il met les autres en danger.
Ben oui,
hein,
c'est vrai. C'est arrivé. Hein, il y a eu un homme.
À plusieurs reprises, j'ai dû faire des signalements moi à la préfecture parce que c'était pas possible. Hein.
Ouais,
on
c'est
pouvait
vrai.
Pas laisser la personne conduire. C'est quand
alors
même
les troubles problème. Cognitifs, comme tu dis, ils se manifestent comme ça. Comment pour que les gens comprennent?
Par exemple, on ne sait plus que. Par exemple, moi j'ai déjà vu des personnes, par exemple une excellente cuisinière qui avait tenu un restaurant toute sa vie, elle ne savait plus rien faire.
Incroyable.
Ça, par exemple, plus aucun plat. C'est perdre tous les acquis, toute l'expérience. C'est une incapacité à prendre une décision avec discernement, à décider pour soi-même, avec clairvoyance. Voilà. C'est ça.
D'accord. Ah oui, c'est. Et puis aussi la marche, tu dis qu'on.
Ces ouais, personnes ouais. Ah, qui, oui, après il y a un impact sur l'espace. Les fonctions, ce qu'on appelle le fonctionnel.
Oui.
C'est que petit à petit, on perd la marche, on fait des chutes.
On trébuche, ouais.
Et puis après, on ne sait plus s'habiller. On est obligé d'inciter, de stimuler la personne. Si on ne lui dit pas d'aller se laver, eh ben, elle oublie. Si on ne lui dit pas de manger, elle oublie. Donc des fois, il y a des problèmes de malnutrition, dénutrition chez les gens, des personnes âgées avec des hospitalisations. Parce qu'elles oublient de manger, elles ne savent plus manger. Ou quand elles mangent, elles vont réclamer à manger au bout d'une demi-heure en disant qu'on ne les a pas servies.
Ah oui. Ah oui, ah oui, 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 oula.
Il y a des problèmes d'agressivité, comme disait l'autre personne, là. Il y a, chez certaines personnes, il y a des problèmes d'agressivité physique et verbale. Puis il y a des tendances un peu paranoïaques aussi, ça peut arriver aussi. Après, ces personnes-là, malheureusement, elles peuvent pas rester à la maison, hein, parce qu'elles peuvent mettre le conjoint en danger. Hein.
Ben c'est ça, elles peuvent mettre le feu, elles peuvent mettre, je sais pas, elles peuvent.
C'est ça. Ouais, ouais, tout à fait.
Oh, ben écoute.
D'ailleurs, dans les domiciles, quand il y a du gaz, on demande aux enfants de supprimer le gaz, hein.
Ah oui.
Ça met tout moi, en danger.
Oui, je pense tout de suite à ça. Moi, dès qu'on parle de.
Ah, mais il faut l'enlever le gaz, c'est obligatoire. Hein.
Ouais. Dès qu'on parle de schizophrénie, pardon. De cette maladie Alzheimer, parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus présent hein, dans la vie des familles. Et moi, je leur dis, hein, je dis, faites attention parce que le gaz.
Il n'y a pas de traitement, malheureusement. Pas encore de traitement. Peut-être qu'on en trouvera un jour, mais pour l'instant, il n'y a pas de traitement.
Oui.
Donc voilà. Écoute, je vous souhaite une excellente journée.
Merci beaucoup, Jamila.
Je dis au revoir à toutes les auditrices et auditeurs. Voilà.
Merci de ton intervention qui était très précieuse ce soir.
Voilà.
Merci beaucoup, en tout cas.
Au revoir.
Je t'embrasse. Bonne soirée. Au revoir, Jamila. Merci, notre Jamila. Alors, on a Méziane, tiens, Azoul. Il arrive maintenant. Bonsoir, Azoul. Méziane.
Allô, bonsoir Vanessa.
Bah écoute, tu arrives à la fin, qu'est-ce qui t'arrive?
Ah bah écoute, j'ai des occupations nocturnes.
Ah bah je vois ça, bah alors?
Bah ouais, j'ai mes soucis.
Qu'est-ce qui se passe?
Oh, plein de choses.
Ah bon?
je dois préparer mon...
Ton départ ?
Mon avenir dans l'au-delà.
Bah écoute, est-ce que tu as fait ton testament ?
Ah non, non, non.
Bon.
Non, j'ai pas fait de testament. Bah, j'ai pas de fortune à laisser, donc...
Ah bon ? Oh bah, j'allais t'envoyer ma pièce d'identité, je me suis dit.
Il va pas
m'oublier.
J'ai pas de fortune personnelle.
Ah ben bah alors.
Donc, de ce côté-là, il y aura pas de bagarre déjà, ce serait bien.
T'as la richesse du cœur, c'est déjà bien, non ?
Ah ben bah, c'est déjà pas mal, ouais.
Exactement. C'est la plus importante.
En tout cas, j'ai bien apprécié Jamila, là, que j'ai pris juste au moment où...
C'est important,
hein, Jamila était déjà en train de parler, là.
Oui, très important.
C'est un médecin, non ?
Bah écoute, elle n'a pas dit trop, mais je pense qu'elle est dans le monde d'Alzheimer, hein, de cette maladie qu'elle connaît très bien.
J'ai bien apprécié ce qu'elle a dit. Moi, j'ai pas pris depuis le début.
Oui.
Mais c'est vrai qu'il y a des maladies vraiment incroyables.
C'est compliqué, hein, cette maladie d'Alzheimer.
On ne sait pas quoi penser par rapport à ça.
C'est horrible.
On est démunis. On ne peut pas jeter la pierre aussi aux gens qui ne peuvent pas s'en occuper. Parce que c'est
on ne peut pas se mettre à la place
des gens. Ce n'est pas donné à tout le monde non plus. Hein.
Oui, on ne peut pas se mettre à la place des gens.
Non, c'est vrai que des fois, on juge, on dit telle personne, il y en a qui sont plus que les autres.
Non.
On n'a pas tous la même énergie, c'est pas une faute.
Mais elle a raison dans une chose. Je ne parle pas de ceux qui mettent leurs parents, etc. Bon, on ne sait pas pourquoi, toujours. Mais elle a raison dans une chose, puisqu'elle est dedans et elle a témoigné là-dessus. C'est vrai que moi, je l'ai même pas entendu. C'est que dans une fratrie, quand ils sont à plusieurs, tu vois, il n'y en a qu'une ou un, et surtout une qui... toute la charge pèse sur elle. Bah, ça, c'est pas normal.
C'est souvent.
Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal, Méziane. Et elles le disent, moi.
C'est pas normal. Ben, oui, c'est pas normal.
Ah ouais. Donc, les autres, ils abusent parce qu'elle dit rien,
qu'elle dit rien, exactement. Voilà. Puis ils disent, c'est qu'elle a l'énergie, puis les compétences.
Ah ouais, non, c'est même pas ça. C'est parce qu'ils veulent se décharger, ils sont égoïstes.
Mais c'est vrai.
Dans une fratrie, il y a beaucoup d'égoïsme. Ce serait bien qu'on reprenne cette discussion demain, Méziane, mais essaye de venir plus tôt, s'il te plaît.
Oui, c'est la fin, là.
Oui, ça y est, on va rendre l'antenne. Reviens demain, Méziane.
Reviens demain. Vous êtes bien agréable de votre visage.
J'adore. Je t'adore, mon Méziane, je t'adore. Reviens demain. Merci. Leïla, demain, ma chérie, je suis désolée, je t'ai pas remise à l'antenne. Fouzia également, Gino et les autres. Merci, Zach. On se dit à demain. Belle et douce nuit à vous, chers amis. Faites de beaux rêves. Moi, je vais rentrer avec mon Ramsès. Ramsès m'a accompagné aujourd'hui. Regardez, il vient. Il a entendu son nom. Viens dire bonsoir, Ramsès. Bon, allez. Un compagnon de route, mon petit Ramsès. À demain. Demain, je vous donne rendez-vous à 11h pour vos petites annonces. Ok, de 11h à midi. À demain, je vous aime. Bye.
Retrouvez Confidence tous les jours de 21h à 23h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.